Coucou les movers et bienvenue dans ce nouvel épisode de Movers, le podcast pour les gens qui bougent. Ici Coach Slim de la Nomad Slim Movement Academy, le gars du mouvement, pour un nouvel épisode, une nouvelle conversation cosmique autour de la culture du mouvement, de la pratique physique, du développement personnel, de la relation corps-cœur-esprit, de la spiritualité, bref, tous les outils qu'on peut utiliser pour exploiter son corps, son cœur, son esprit et essayer d'utiliser chaque fibre, chaque once de notre potentiel humain. Voilà, rien que ça. Aujourd'hui, j'accueille Prosper, le coach Prosper, un ami de longue date, un frère de lumière qui, au travers de son expérience de gymnaste, puis de coach, puis d'enseignant de yoga, va nous partager différents outils qui lui ont permis de faire ses différentes transitions, d'analyser certaines phases de sa vie, de rentrer un peu plus dans la spiritualité, se libérer de l'ego, ce que ça veut dire que d'enseigner, comment mettre ses pensées sur le papier, essayer d'y revenir et comment progressivement évoluer. Voilà, tout un tas de sujets qui vont, je l'espère, vous donner pas mal d'outils pour vous développer, pour vous améliorer. Comme d'habitude ici, on ne se pose pas du tout en expert ou en gourou ou en je sais tout. Ce sont simplement des petits outils contenus dans une boîte à outils. Essayez de prendre ceux qui vont vous être utiles aujourd'hui et n'hésitez pas à jeter ceux qui ne vont pas l'être. Ce qui est intéressant ici dans cette conversation, c'est que Prosper, tout comme moi, a cette expérience d'enseignant, a cette expérience de coach. Et donc, ça nous donne un certain levier pour analyser la manière dont les gens s'accaparent certaines choses, la raison profonde vers laquelle ils vont pour atteindre telle ou telle compétence ou telle l'acquisition de telle ou telle technique, etc., etc. Et il va nous partager un point de vue qui est peu partagé sur les communautés autour du yoga, la manière dont lui il est rentré et comme il a ce background d'athlète dans un sport qui est assez intense, qui est la gymnastique. Voilà, toutes les transitions et toutes les manières de penser qu'il a dû changer. Et une critique constructive de la communauté et de la pratique du yoga. Et également, sa relation avec l'éducation nationale et ce qu'il a pu en retirer et ce qui, un modèle de pensée qu'il aimerait bien critiquer ou bien partager avec d'autres. Encore une fois, une conversation en toute humilité, en toute authenticité et en toute sincérité. N'hésitez pas à écouter les différents chapitres et les voir comme des outils et piocher ceux qui vont vous être utiles aujourd'hui. Et voilà, comme d'habitude, cette conversation, elle est pas censurée, pas éditée. N'hésitez pas à commenter et à répondre aux différentes choses si elles vous interpellent. Je vous laisse profiter de cette belle conversation cosmique avec le coach Prosper. C'est parti, Movers, épisode 17.
Aujourd'hui, il y a la femme de ménage au studio, donc elle va peut-être pas se casser, mais bon, ça devrait aller, je suis loin.
C'est parfait, mec. C'est le setup parfait pour un podcast. Tu as choisi la bonne journée, mon prospect.
Ouais, la lumière, j'ai fait merde, j'avais complètement oublié.
Démarre. J'aime beaucoup. Ça devrait aller. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'écouter un podcast précédent?
Ouais, man, je me suis fait, j'ai découvert, j'ai mis mes 5 étoiles, j'ai mis mon commentaire positif, allez-y, foncez.
Merci.
J'ai écouté ton premier épisode avec
le bon Steve.
Un gars très intéressant d'ailleurs, très intéressant.
Mais très, justement, ça, si j'en avais un à te recommander, je t'aurais recommandé celui-là. Parce qu'il est, il est clairement dans la même vibe que nous. Et tu vois, quand on s'entraînait aussi là au studio, c'était les autres entraînements que je faisais, tu vois, avec les cascadeurs et tout, c'était avec lui.
Ouais, c'est cette team-là, ouais.
Ouais, c'est cette team-là, tu vois. Et comme tu l'as vu, c'est très, très cosmique, très dans les sujets aussi, moi, avec lesquels j'avais envie de te parler, tu vois. Comme ça, on commence pleine balle, hein, on y va direct, pas de présentation.
Bon, on est dedans, c'est bon.
Et tu sais, les sujets un peu autour de la relation corps-esprit, etc. Et aussi d'une approche différente de l'équilibre yin-yang. Tu vois, nous, on en parle beaucoup. Et c'est vrai que ce qui est promu, c'est beaucoup plus l'aspect yin. Tu sais, on parle là des yogis, des trucs comme ça. Mais on a peu cet aspect où des gens viennent des entraînements durs, comme les arts martiaux ou comme pour toi la gymnastique, et qui ont surmonté ça et qui ont quand même réussi à trouver une sorte d'équilibre. Tu vois, c'est... Je trouve qu'il y a peu, cet aspect-là. Tu sais, on parle peu des gens qui font des trucs extrêmes et pourtant dans ces pratiques extrêmes trouvent la paix, trouvent la zénitude, trouvent la résolution de la dualité avec l'ego, etc. Et moi, c'est ça le point de vue que j'avais vraiment envie de partager avec Steve. Et je pense avec toi, ça va remettre une couche là-dessus, tu vois, quand on en parlera, si on en parle. Mais voilà, bah, c'est top que tu aies écouté celui-là et je te remercie d'être parmi nous. J'adore le setup, mon petit Prosper.
Ouais,
très malin.
C'est le bureau du padré, tu vois, rempli ouais. d'histoires chargées de possibilités et de graines de rêve, tu vois. Magnifique. On a tout. On a la lingerie au bas, tu vois, il y a des petites photos de petits fessiers à gauche à droite, puis après on a Cali qui est par ici, puis après t'as... Enfin, il y a tout, quoi, c'est génial.
C'est trop mortel. Et est-ce que c'est dans cette petite librairie que tu as trouvé tes inspirations poétiques? Tu sais quoi, j'aimerais commencer avec ça. Parle-nous un peu de ta plume, mon ami. Toi qui veux jamais en parler, c'est l'occasion. Je te mets les lumières dessus direct. Parle-nous de ta prose.
La plume, ça a commencé... Ça a commencé un peu comme beaucoup de jeunes quand, enfin beaucoup de jeunes, j'exagère. Déjà, j'ai le problème de généraliser les choses, donc je vais dire j'ai commencé la plume par le rap, en fait, par l'écoute du rap, et après par mon petit groupe de rap que j'avais avec des potes. J'étais très nul, j'étais hors temps, hors beat, les chants, je comprenais rien. Mais j'adorais écrire. J'étais là, vas-y, moi, j'écrivais. Je pense que j'ai un rapport aux mots aussi assez fort parce que j'ai des souvenirs de mon père quand on était petit qui après le dîner nous disait 10 minutes, rendez-vous dans la bibliothèque. Il nous prenait un livre, il nous lisait des phrases et si on parlait juste ah, écoute la puissance des mots, écoute.
Mais non.
Il nous lisait ses phrases et tout.
C'était Gandalf le papa.
Et ouais, complètement. Et inconsciemment, bah, je pense que c'est vachement rentré en moi. Et après, je trouve que j'aime bien dire que les mots soignent nos mots et du coup je suis pas un grand bavard sauf quand je me sens très à l'aise avec les gens, mais avant de me sentir à l'aise ça met du temps.
Ouais.
Je suis très à l'aise à l'écrit, j'aime beaucoup l'écrit déjà parce que c'est intime, parce qu'au final t'es avec toi et toi-même et tu peux vraiment du coup dire ce que tu n'oserais pas forcément dire à quelqu'un. Donc le rapport aux mots, ouais, j'aime beaucoup, c'est pour moi quelque chose de très fort et je trouve que la justesse des mots peut avoir un impact tellement fort au final et que c'est très difficile de choisir ses mots. C'est un peu comme la respiration, on n'en a pas conscience, on parle depuis qu'on est petit, on balance, on débite, mais en vrai on ne sait pas forcément parler, on va dire, et comme on ne sait pas forcément respirer au final, et je trouve que les mots c'est quelque chose de vachement intéressant et ça peut être très profond, et donc mon père m'a un peu bercé là-dedans, et après ça a évolué avec l'écriture du rap, on va dire. Et je suis fan de rap français, j'aime beaucoup les paroliers, comme on dit.
Ouais.
Donc j'aime beaucoup les mots qui ont des sens. Donc toutes ces inspirations-là. Et après, je suis tombé un peu dans la folie des citations, des grands poèmes.
J'adore.
Je passe des heures à chercher des textes, des citations sur Internet. J'ai enfin trouvé des livres de recueils de textes, de poèmes.
Ouais.
Ça, je suis très content. Et après... Après, mon écriture personnelle, ouais, j'en parle pas des masses, mais c'est vrai que moi, je t'avais fait lire deux, trois trucs, enfin, je t'ai fait écouter deux, trois trucs, du coup. Donc ça, c'est, en gros, quand je me sens bien ou pas bien, bah, j'aime bien prendre un stylo, j'aime bien débiter, j'aime bien écrire, j'ai beaucoup de notes dans mon téléphone avec, ça peut être des petites phrases, comme ça peut être des très longues phrases, des trucs que j'arrête, que je continue, que je reprends. Et je pense que c'est ma façon à moi d'extérioriser. Au final, je suis quelqu'un d'assez timide.
Ouais.
Et avec un capital confiance qui s'est vachement développé, mais qui à la base était pas très développé, on va dire.
Ouais.
Et du coup, je pense que le rapport un peu aux mots et à l'isolement, ça me convenait à merveille. Et je pense vraiment que nos mots soient nos mots.
Magnifique. C'est un super point de vue qui est peu utilisé ou peu partagé. Moi, c'est vrai que le rapport aux mots, je l'ai eu totalement différemment. Tu vois, c'était par rapport, ce que tu veux dire à travers quelque chose, par exemple un site web, etc., tu vois.
Ouais.
Ou bien c'était seulement par la lecture, donc que la consommation, mais jamais l'écriture. Et là, maintenant, comme je m'y exerce aussi avec les emails que j'envoie, les articles et tout, c'est vrai qu'il y a, quelque chose de purificateur, tu vois. Il y a quelque chose où vraiment, comme tu dis, extériorisé, mais ça va bien plus que simplement je vomis quelques idées néfastes que j'ai. Non, ça vient vraiment... Il y a une double action. Il y a une première action d'évacuer des choses et une deuxième action de nettoyer ce qui est à l'intérieur. Comme tu disais... Comme on a plus rapport au poids des mots, au sens qu'ils peuvent avoir, aux nuances, et ben au final, on a pas mal de choses dans notre tête qui tournent en boucle et qui prendraient en une minute, en fait, si tu mettais le bon mot sur le sentiment, tu saurais exactement ce que c'est, tu vois. Et surtout, en fait, en français, comme on a beaucoup de nuances, beaucoup de synonymes, et on arrive à exprimer un large panel d'émotions avec des mots, tu sais, dont les degrés varient, mais très finement, tu vois, par rapport à l'anglais, tu vois, moi, que j'utilise au quotidien, où les mecs, pour dire, je suis en colère, je suis pas bien, je suis content, ils peuvent utiliser le même mot, tu vois.
Et tu dis, mais. Ouais, complètement. Nous, on a la chance d'avoir un grand panel. Donc, ouais. C'est clair. Bah, il y a Eric Orsena aussi, que j'aime beaucoup, qui écrit des livres assez cool. Et le dernier livre que j'ai lu de lui, c'est La Fabrique des mots, justement.
Énorme.
Donc, c'est un petit conte super intéressant. Et en fait, on est dans une dictature. Et le roi, le dictateur, trouve que les gens parlent trop. Donc, il leur dit, vas-y, à partir de maintenant, on a 12 verbes. C'est tout. Et on s'exprime qu'avec 12 verbes. Et du coup, dans tout ce déroulement du livre, en fait, bah, tu comprends effectivement l'importance des mots et surtout la nuance qu'il peut y avoir entre un mot et un autre qui, au final, veulent dire la même chose, mais qui ont une intensité qui peut être vachement différente. Et on pense effectivement que c'est les mêmes, mais le choix et le poids des mots peut être vachement. On a la chance d'avoir une langue qui est remplie de mots et de nuances. Ouais. C'est assez intéressant de effectivement trouver les bons mots, quoi.
Ah, c'est clair.
L'éloquence.
C'est clair. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours séduit. Tu vois, l'art de parler, l'art de communiquer. Tu vois, les orateurs. J'ai toujours été fasciné par les mecs qui arrivent à rassembler des foules. L'art de la dialectique. Tu vois, le logo, c'est être capable de manipuler des concepts et les interlacer, les faire se communiquer entre eux, c'est un truc de fou. Et là, moi, j'ai trouvé mon terrain de jeu. La danse et le mouvement, tu vois, c'est vraiment ce que je fais. C'est, tu sais, tu mixes les trucs entre eux. Il y a un gars qui fait, il marche par terre, l'autre il fait du yoga, l'autre il fait de la danse. Boum, ça communique, ça se mélange, ça s'entrelace. Et c'est pareil avec les mots. Et là, pour le coup, le mouvement, personnellement, ça a été le vecteur pour moi de, on va dire, qui a permis de nuancer pas mal de concepts, pas mal de thèmes, pas mal de choses que j'avais dans le cerveau. Tu sais, essayer de mettre en sorte d'avoir tout ce que je savais faire à plat, de voir les connexions entre les différents éléments, de les combiner, de prendre le bon, de pas bon, de les ordonner, de les classifier, de les hiérarchiser. Et ça, c'est pareil avec les mots. Et pour en revenir un peu à l'outil que toi, tu utilises, la prise de notes, c'est marrant, j'en parlais là dans un email il y a quelques semaines, tu vois. C'est mais surpuissant de prendre des notes. Genre, j'arrive pas à... Peut-être là, tu vas m'aider. J'arrive pas à mettre l'emphase suffisamment sur l'importance de prendre des notes. Moi, personnellement, peut-être comme toi, moi, j'écris mes workouts. Tu vois. J'écris quand je m'entraîne et je dis ce que je vais faire. Genre, j'arriverai plus maintenant, en fait, à m'entraîner comme ça au hasard. J'ai besoin de l'écrire et de dire, vas-y, cette semaine, bah, mardi, je fais ça, mercredi, je fais ça, jeudi. Et pendant les 3 prochaines semaines, je vais faire ça. Enfin, c'est ouais, tellement important.
Et après, moi, j'aime le rapport au papier, au stylo aussi, tu vois.
Là, c'est vrai, ça, c'est cool.
J'aime bien l'odeur du papier. Je suis gaucher, donc j'aime bien me retrouver avec de l'encre. Donc, il y a tout ce rapport-là. Et je pense, ouais, la prise de notes, pour moi, c'est de la méditation, c'est une prise de conscience, c'est une pause sur le temps. J'aime bien dire dans les cours de yin que je donne que ces gens-là sont des gangsters modernes, en fait, sont des kairas du nouveau monde. Mm. Parce qu'à un moment, tu dis, ok, bah, tu sais quoi, fuck everyone, je prends une heure ou une heure et demie ou selon le temps de ton cours pour moi. Je me mets avec moi et que pour moi. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on trouve très bizarre, tu vois. Les gens, tu leur dis, comment ça, tu prends du temps pour toi, mais qu'est-ce que t'as à faire, mais pourquoi tu prends pas, parce que je veux me connaître. Et je pense qu'on ne se connaît pas, on est la personne avec qui on risque de passer le plus de temps et on est celle qu'on connaît le moins, tu vois. On est toujours à demander des avis aux gens. Ça me va bien ce t-shirt, tu préfères celui-là, tu préfères tatata. Et en fait, on attend juste l'approbation des gens. Parce que, dans le fond, c'est très bien ce qu'on veut. Mais on est toujours à douter. Et donc, je trouve que cette prise de notes, bah, c'est un moment où justement tu dis, ok, bah, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis pas heureux? Et si je suis pas heureux, est-ce que je peux tourner ça? Pourquoi? Est-ce que dans ce malheur, il n'y a pas du bonheur? Est-ce que machin? Est-ce que si? Et c'est vraiment pour moi un moment de méditation et c'est de la pleine conscience. C'est de la pleine conscience parce que c'est vraiment un moment où tu te stoppes. Tu te stoppes, t'es seul, tu peux avoir plein de choses qui se passent autour de toi, bah, tu t'en fiches, t'es soit avec ton stylo, soit avec ton portable et tu notes tes états émotionnels, tes pensées, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Mais je trouve que c'est important parce que ça te permet encore une fois déjà de décharger ce que tu as, parce qu'au final tu le mets par écrit et en plus de le mettre par écrit tu peux le visualiser parce que tu le lis. Et après c'est pour moi une sorte, ouais, c'est une méditation, c'est vraiment un moment de pleine conscience et c'est un moment que tu t'offres à toi-même dans une société où on peut croire que tu n'as plus de temps pour toi.
Donc, moi, je ça c'est bien vrai. Vrai, on nous fait croire qu'on a plus de temps pour nous, ça c'est bien vrai mec, alors que le temps on a 24 heures, je veux dire il y a assez, tu vois, il y a assez de temps pour tout faire, tu vois.
Et on est beaucoup, après je pense que nous on a de la chance parce qu'on est dans un rapport au corps, qui dit corps dit esprit normalement, et puis on a la chance au final de faire ce qu'on aime, en fait on a la chance de faire ce qu'on aime et ça c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Mais il n'empêche que tout le monde, même si ce que tu fais, tu n'aimes pas, bah, raisonne plus pour écrire, parce que ça va te donner des idées, et puis tu vas pouvoir savoir ce que tu aimes, ce que tu veux.
Exactement.
Tu prendras ton courage à deux mains et tu diras, attends, ça, je veux plus, en fait. Ça fait deux mois que j'écris à chaque fois, ça m'embête, je n'aime pas.
Ouais, blablabla. C'est clair. Bah,
c'est écrit, mec, c'est noir sur blanc, tu vois, tu le sais, tu te mens à toi-même, tu n'as plus qu'à. Et je trouve que c'est vachement utile l'écriture pour ça.
C'est vrai que ça peut être surpuissant là de l'avoir en fait et de voir les stats en gros, tu vois, sur un espace de 3 mois, tu dis putain, j'ai écrit je n'aime pas le rouge mais 10 fois en fait. Putain, il y a un problème. J'arrête pas de l'écrire mais genre je me le dis jamais à moi-même, tu vois. Donc tu sais là t'es devant tes propres contradictions quoi. T'es en mode putain mais j'ai écrit ça tous les jours pendant 3 mois, il y a un problème, tu vois.
Que l'écriture qui ne ment pas, tu vois, on peut dire, ou il y a que la vérité qui ne ment pas, tu vois, et c'est un peu ça, c'est que tu peux te mentir, mais si effectivement au bout de 3 mois tu relis un peu et tu vois que t'as tout le temps écrit j'aime pas le rouge, bah à un moment accepte cette réalité, fais quelque chose pour peut-être ne plus être confronté au rouge
ou à
ta peur et va dans le rouge et tu verras qu'au final bah c'est la couleur de l'amour.
Oh là là, le poète, le poète des mots, le gangster des mots. Non mais c'est une belle manière de voir les choses là. Et je suis content qu'on ait démarré par ce petit thème là des notes, de l'écriture, de la prise de la pleine conscience par un rapport à la physicalité, parce que ça reste du mouvement, tu vois. T'as besoin de ton corps pour écrire, tu vois. Si t'as pas un corps qui est libre déjà de bouger, c'est impossible d'écrire, tu vois. Et je crois que c'était Steph dans son épisode qui disait que même l'artiste qui peint, son vecteur pour exprimer son art, ça reste le corps, tu vois. Même si il y a plein de choses qui se passent dans son esprit, les couleurs, l'agencement, etc., il a besoin quand même d'un corps pour transmettre ce truc-là. Donc même comme première approche au rapport au corps, rien que mettre les choses sur le papier, c'est pour ça qu'en fait, je pense que t'as raison quand tu dis le rapport au papier et au crayon, il est même beaucoup plus puissant, parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à prendre mes notes sur mon ordi, mon portable, etc., parce que je le bouge, etc. Alors qu'en vrai, le rêve, et d'ailleurs pour te dire à quel point c'est mon fantasme, j'ai acheté un petit carnet là, tu sais, papier et un stylo, mec. Genre il y a peut-être 12 jours, je les ai toujours pas ouverts, tu vois. Et là, tu sais quoi, après cet épisode, je vais me forcer à l'utiliser, tu vois. Et parce que je veux cette sensation là dont tu parles, le rapport au corps, au papier, et c'est comme c'est prendre conscience que tu es en train de manger par exemple, tu sais, c'est le faire en éteignant tout. Je pense que prendre un cahier et un crayon, ça t'ancre directement dans OK, le moment qui va suivre là, c'est le moment où j'écris. Alors que quand tu es avec ton portable, tu peux discuter avec quelqu'un, checker vite fait comme ça. Et c'est pas la
me t'appeler quand tu es en train d'écrire.
Exact. On peut quand même te déranger, etc. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'il y a le rapport physique qui est plus puissant.
Moi, j'ai trois cahiers dans mon sac en permanence. J'en ai trois sur lesquels il y en a qui commencent à être remplis, il y en a qui sont moins remplis, il y en a. Enfin, je prends, j'écris.
D'ailleurs, j'ai
range chez moi. Je dois avoir 20 carnets, tu vois. 20 carnets. Il y en a que j'ai pas ouvert. Il y en a, j'ai écrit deux mots, puis j'en ai pris un autre, machin. Mais j'ai toujours un carnet avec moi. J'ai toujours des stylos avec moi. Dans ma banane, j'ai toujours mon petit stylo, tu vois, pour être sûr que, si on écrit, on a des choses à dire. Et je pense qu'aussi, la beauté de, parce que je trouve que c'est bien les téléphones et tout, mais c'est encore un moyen de consommation. Ton téléphone, il bug, t'as perdu toutes tes notes. Voilà.
C'est vrai.
Ton portable, il te lâche, t'as perdu toutes tes notes. À moins qu'effectivement, tu sois super paré, t'es dans, je sais pas, le iCloud, tous ces trucs-là, tu te piques, tu prends à gauche, à droite, machin, bidule, ok, vas-y, tu vois. Mais si tu n'es pas dans les nuages et tu as les pieds sur terre.
Ah! Le poète des mots.
T'as ton cahier, quoi. Et
ouais,
là aussi,
vrai.
Mon père écrivait beaucoup, tu vois, aussi dans ses notes. Et donc, ça m'a, je pense que c'est un peu nos premières, enfin, c'est ma première inspiration, un peu, mon père.
Mm.
Donc, le voir écrire, j'ai voulu écrire. Et après, c'est une petite revanche pour moi. J'ai été un élève piteux, on va dire. J'ai encore du mal.
Ne t'en fais pas. Tu rentres dans la tradition des invités du podcast. C'est tous des mecs qui ont lâché l'école. T'en fais pas. Tu es en bonne compagnie. On est tous comme ça.
J'ai encore, je pense, des... Ça m'a traumatisé l'école. Ça m'a vraiment traumatisé... le côté où à un moment tu crois ce qu'on te dit que tu es et donc inconsciemment tu le deviens.
Ouais.
Donc on m'a traité de cancre, je suis devenu un cancre. On me disait que je savais pas travailler, je travaillais pas. Tu fais des bêtises, tu fais des bêtises, blablabla. Bla. Et maintenant je suis très content aujourd'hui. Au début je le prenais dans l'ego comme une revanche, tu vois, pour tous ces profs. Maintenant tu vois, j'écris des cahiers, des livres et des lignes et des lignes et des lignes. Et c'était un peu, je pense, au départ une petite revanche aussi sur ça. Et une libération, ce que j'aime bien appeler la libération des complexes, c'était une libération des complexes de dire, bah, ok, attends, j'ai pris mon stylo. De temps en temps, j'envoie des textes à mon père et il me dit, bah, tu fais plus de fautes d'orthographe. C'est incroyable. Et tu vois, c'est ces petites victoires qui, bah, ouais, ok, attends. Parce qu'en fait, l'école, c'est tellement une période si longue que si à un moment, tu ne te défais pas de ce qu'on t'a fait croire, ben ça peut
c'est ta vie en fait, c'est ta vie,
ça peut vraiment être dur, tu vois.
Et oui,
donc c'est voilà, ce côté là un peu revanchard. Moi je sais que j'ai du mal avec les éloges quand on me dit que c'est bien. Je rougis, je regarde par terre parce qu'à l'école on m'a jamais dit que c'était bien, tu vois. Donc c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter, parce qu'en fait je croyais qu'il fallait être mauvais pour être accepté dans ma classe par mes professeurs, par mes trucs. Et donc tu rentres dans ce schéma au final un peu destructeur. Donc je pense aussi, voilà, ce petit rapport à l'écrit, c'est aussi un petit,
c'est
une petite
revanche
pour moi et pour tous ces professeurs.
Non, mais c'est une belle manière de le voir. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se reconnaître aussi dans ce que tu dis et dans le rapport aussi à l'école et à quel point ça nous définit. Et moi, j'irais même plus loin. Sans, moi, je critique pas, tu vois, l'éducation nationale et tout. Pendant longtemps, je critiquais. Alors qu'au final, moi, j'en suis le produit. Et au final, évidemment qu'il y a du bon, tu vois, mais ne serait-ce que la camaraderie, les potes, etc. Et après, voilà, ça reste mieux que de ne pas avoir d'accès à l'école, ne pas avoir accès à l'éducation. Enfin, je veux dire, on se plaint pas, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a évidemment, comme toute chose, il y a des choses à améliorer. Et je pense que là, ce que tu dis, moi, j'irais même un peu plus loin, c'est que malheureusement, pour pas mal de gens, ça les définit pour l'entièreté de leur vie. Tu vois, les études que tu as faites te donnent accès à un diplôme qui te donne accès à une identité, enfin même pas à un titre, que nous, on attache à une identité. Tu vois, t'es en soirée où tu rencontres quelqu'un, salut, c'est quoi ton prénom, tu fais quoi?
Tu fais quoi? C'est hallucinant, mais des fois, c'est même
c'est
avant
flippant,
prénom.
Hein. Ouais, c'est vraiment effrayant. Quand on y réfléchit, c'est effrayant parce que sans aller toujours, retournons à la nature et dans la nature, il n'y avait pas ça. Non, mais c'est, je veux dire, à une époque où il n'y a pas de titre et il n'y a pas de choses comme ça, tu te dis, bah, en quoi tu sers la communauté? Ça peut être plus utile comme question. C'est qu'est-ce que tu fais pour aider les gens, tu vois? Ok, c'est quoi la chose que tu fais pour servir, tu vois? D'accord. Mais c'est pas toi. Ça reste, c'est pas ton identité. C'est juste quelque chose que tu fais, tu vois? Ah, bah, lui, c'est Pierre, c'est le boulanger, tu vois? Il fait du pain pour tout le monde. Ok, cool. Mais c'est Pierre. Et Pierre, il a d'autres attributs, tu vois? C'est pas que un boulanger. Et là, c'est vrai que moi, je me rends compte de plus en plus. Je discute là même avec des amis, tu sais, qui veulent un peu changer de mode de vie, changer de carrière, changer de style de vie. Et en fait, ils sont encore prisonniers de quelque chose qui leur a été inculqué, comme tu as dit, quand on avait 10 ans, quoi.
Tu vois, parce que je pense, en plus, l'époque où on est
puissant.
Tu vois, là, c'est l'époque de l'apprentissage où tu apprends et tu enregistres très vite. Et effectivement, quand tu passes une scolarité, ma mère, elle m'appelait Ryan. Il fallait aller sauver le soldat Ryan.
<T'es>
Et tu vois, c'est pas inconsciemment, ouais, ça reste dedans. Et si t'arrives pas effectivement à t'en libérer et à passer à autre, effectivement, tu peux croire que ça définit la personne que tu es. Et c'est pour ça que je pense que nous, on a une chance incroyable, c'est que le mouvement nous a soigné, en fait. Le mouvement nous a soigné.
Moi, c'est clair.
Nous a donné confiance en nous. Une maîtrise de notre corps. Et même si tu n'es pas encore au courant, le corps amène l'esprit, tu vois. Donc, si tu ne sais pas encore, mais tu fais des pompes, des trucs, bah, t'es quand même en connexion avec l'esprit.
Exactement.
Tu te soignes. Et moi, je sais que le sport, la gym, ça a été mes libérateurs. C'était un endroit où j'étais accepté pour ce que j'étais. Et pas défini, parce qu'en plus l'école, moi, ce que je trouve particulier, c'est que ton professeur, il a sa vision, il a ses pensées, il a son mode de fonctionnement, et en fait il se permet, entre guillemets, de juger une classe de 30 élèves, mais avec sa vision qu'il a de la vie et du monde. Donc c'est là où c'est vachement bâtard, si on peut dire, c'est que bah souvent t'as ce prof là qui va peut-être pas aimer, mais suffit que un autre prof, il va adorer. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté l'école. J'ai arrêté en première suite à un contrôle de français où justement il fallait faire un poème sur ce qu'on aimait. C'était ma période où j'étais dans l'écriture à fond. Ce que j'aimais, c'était la gym et les rimes. Donc je fais un poème sur la gym que moi je trouve toujours assez cool, tu vois. Et la prof me met un 6 sur 20, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et je vais la voir et je dis, mais je comprends pas. Un peu l'ego aussi qui part. J'ai fait lire mon poème à toute la classe. Tout le monde trouve ça cool, machin, nan, nan, pourquoi? Et là, elle m'explique qu'en fait, elle a passé son week-end avec des copines profs.
Ouais.
Et qu'elles ont été plusieurs à corriger les copies pour l'aider à aller plus vite dans son travail. Et que du coup, elle a fait une moyenne de 3 notes.
Ouais. Mais non!
trouvait ça bien, l'autre qui trouvait ça moyen, l'autre qui je sais pas quoi. Et du coup, et là, 6 sur 20. Et donc là, je suis sorti de là, j'ai dit, vas-y, c'est bon, moi, l'école, que nenni, on est en train de nous définir sur des visions unilatérales, tu vois, bah, vas-y, j'en veux pas de ça, c'est pas moi, je veux pas être défini par l'école. Et je pense qu'avec le recul, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises, en fait, dans ma vie, quoi. Ça a été de quitter les bancs scolaires pour l'école de la vie, qui est l'une, au final, des écoles les mieux, tu vois. Et on l'a dans le sport, l'école de la vie. On s'aide les uns les autres, t'es toujours là pour tes potes, ton entraîneur, c'est presque... Moi, j'écoutais plus mon entraîneur que mes parents. Mes parents appelaient mon entraîneur pour lui dire, ouais, Prosper, il travaille, il fait pas gym aujourd'hui, il travaille. J'arrive à la gym, mon entraîneur, tu vas dans les gradins, tu fais tes devoirs. J'allais dans les gradins, je faisais mes devoirs. Donc, t'as ce côté-là où vraiment, c'est une vraie école de la vie, mais parce qu'en fait, on te respecte pour qui tu es. Et du coup, c'est un rapport qui est tout de suite différent. L'école, c'est classifié par notes. On prend les contrôles du plus fort au plus nul.
Ah ouais, l'angoisse.
T'as la directrice, je sais pas si t'as eu ça. Moi, j'avais la directrice qui, Madame Panier, tu vois, je m'en rappelle encore. Madame Panier qui venait dans notre classe, qui s'asseyait sur le bureau de la prof. Tu sais, très droite, très sonnelle. Et puis qui te sortait les... Et t'avais des images si t'étais un bon élève. Et ça montait jusqu'à 3 ou 4 images. Ouais. Pareil, c'est super dégradant quand t'es en primaire et qu'en fait, tu sors de là, t'as 0 image. T'as tous tes potes qui ont des images et toi, tu sors de là, t'as pas d'image. Donc, inconsciemment, sur le petit garçon que t'es, ça, tu vois, ça travaille négativement. Clair. Et c'est ça le problème. Je trouve, un petit peu de d'éducation. C'est qu'on adore le négatif et on met si peu en avant le positif, en fait. Et c'est ça le grand, je pense, problème. C'est qu'on parle trop peu du positif, tu vois, c'est... Il y a ce système scolaire qui a été inventé, tu sais, par une dame, et l'éducation nationale l'a refusé. Ou en gros, c'est peut-être que je m'avance dans beaucoup de trucs, hein, quand je dis l'éducation nationale l'a refusé.
C'est plus dramatique. On va le garder quand même parce que c'est plus dramatique, mais on ira faire des recherches en post-production.
Cette dame qui crée une école, il y a plus de table, il y a plus de chaises, il y a plus rien. T'as des postes. Elle met des postes, genre le premier poste, je sais pas, c'est monter des Lego, le deuxième c'est faire du coloriage, enfin plein de postes avec des capacités différentes. Directement, l'enfant va vers ce qui l'attire. Il devient expert dans son domaine, dès qu'il est expert, il s'embête. Donc il va soit ailleurs, et du coup l'autre qui est devenu expert, lui apprend. Ou soit il reste là où il est, et c'est un autre élève qui vient, et du coup, bah, étant lui expert, et bah, il enseigne tout ce qu'il connaît à son copain. Et à la fin, bah, ils sont tous plus ou moins experts dans plein de domaines. Et pourtant, bah voilà, c'est un système libre. Être assis 50 minutes, voire une heure. Tu te souviens l'angoisse que c'était?
Ah ouais.
T'avais pas le droit de bouger les genoux. T'avais pas le droit de te balancer sur ta chaise. Tu pouvais pas faire clic, 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 clic. Sinon, les profs, ils devenaient ouf. Après, on arrive à des cours de 2 heures. Les profs, ils nous donnaient pas de pause. Enfin, mais tu vois, moi, je pouvais pas rester assis 2 heures sans
pause. Ah, c'est impossible.
C'est impossible, tu vois. Et c'est fou que ça soit pas, que personne l'ait capté, quoi. Et je crois qu'on a un système scolaire de manière un peu différent de pays. Des journées de fous furieux. Les gamins, ils ont des sacs incroyables. Quand j'entraînais à la gym, les petites, certaines venaient 3 fois minimum, 5 fois maximum. Elles faisaient des journées plus longues que leurs parents. Et là, je te parle de poussines. En gym, les poussines, c'est 6, 7, 8 ans. Si l'école commence, on va dire, à 8h, finit à 16h, elle faisait 8h, 19h.
Waouh! Bah, au final, ouais, nous, c'est ce qu'on a fait aussi. Enfin, moi, je m'entraînais, c'était pareil.
Ouais. C'était pareil.
C'était 8h, 16h, j'allais au foot, je finissais, il était 20h, j'allais, ou je sais pas, peut-être un peu plus tôt, ouais, 18h, 30, 19h, et après, on allait chercher ma sœur qui faisait le conservatoire. Mec, je rentrais, il était 8h ou 9h, tu vois.
Ouais, c'est quand même hallucinant. Ouais, c'est clair. En plus, on est les premiers à promouvoir, faites du sport, marchez au moins 30 minutes par jour, mais en fait, on ne met rien en place. Ouais. Même tu regardes de l'éducation. Au collège, t'as 4 heures de sport par semaine, au lycée, t'as 2 heures.
C'est vrai que c'est fou, hein.
Tu vois, what the fuck.
Alors qu'aux États-Unis, j'en parle souvent avec mes potes là, ici, tu vois, qu'ils soient américains ou pas. Et qu'aux États-Unis, ils ont des sponsors, enfin, ils sont sponsorisés par tes aptitudes physiques, tu vois. Tu peux avoir des bourses aux universités. Ça aurait été le rêve. T'es bon au basket, au foot, machin, au rugby, boum. On promeut tes capacités, pas seulement athlétiques, tu vois. Même si pour eux, après, évidemment, il y a un énorme business autour des ligues. Mais même, on promeut le fait que, t'es discipliné, tu t'entraînes, tu prends soin de toi. Moi, je regarde les mecs qui ont 17 ans ou 18 ans, là, les Américains. Mais gros, c'est des machines de guerre. Mais ils sont flippants. Ils font trop peur. Ils ont un physique que nous, on a quand on a 30 ans. Eux, ils sont là à 17 ans, ils sont, son petit protein shake, il est là. il a sa structuration d'entraînement. Tu fais, mais mec, moi, j'ai découvert ça tout seul quand j'avais 19 ans, tu vois. Donc, il a depuis l'âge de 15 ans, ils sont là, bam, 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 bam.
Ouais. Bah, peut-être quand je faisais des colonies de, des camps de vacances de gymnastique, on avait, vraiment, c'est là aussi, c'est marrant ce que tu dis, parce que ça m'a fait penser à ça. On a un Américain qui est là, qui fait de la gym depuis un an. Et on a des Français qui font de la gym dans des clubs type de France qui sont très bons et tout, qui font de la gym depuis 6-7 ans, machin. L'Américain français, depuis un an, il fait de la gym, il était meilleur que tout le monde.
Putain, bah ouais.
Il était meilleur que tout le monde. Ah ouais. Et le man a un an de gym. Et en fait, il t'explique, bah moi, j'ai cours de, je sais pas, 8h midi. Et en fait, après, j'ai gym tous les soirs. Tous les soirs, j'ai gym de 15h à 18h.
C'est ça.
C'est clair.
C'est
déjà. Moi, quand j'ai fait de la gym à un moment, c'était compliqué pour que mes parents acceptent que j'y aille 5 à 6 fois par semaine. Parce qu'en fait, et c'est vrai qu'inconsciemment, à un moment, se fait un choix. Tu vois, rares sont les sportifs, on va dire, non professionnels qui passent pas par les sports-études, mais qui se tuent parce qu'ils aiment ça, ouais, qui vont au sport régulièrement. Bah, t'es presque inconsciemment obligé d'avoir une sorte de décrochage scolaire.
Ah, parce c'est
que
sûr.
T'es tellement pas mis en place qu'en fait, bah, si tu vas au sport 5, même 3 fois par semaine, tu vois, 3 fois par semaine, 2h30, 2h, bah, tu m'étonnes que tu sois fatigué parce que le lendemain, tu vas être à 8h à l'école et tu te retapes une journée énorme et puis t'as ton sac qui fait 12-15 kilos. Enfin, tu vois, c'est
plein de choses. C'est vrai que, ouais, logistiquement, en fait, c'est pas fait pour allier les deux. Moi, je m'entraînais 3 fois semaine et j'avais des matchs le dimanche. Mais genre, tu vois, pendant, bah, moi, j'allais jamais en soirée. Enfin, tu vois, tous les trucs comme ça, en fait, tu les fais pas parce que t'es. Bon,
bah,
après,
ouais,
c'est vrai que quand t'es passionné, c'est bon, parce que moi, j'ai jamais été intéressé par les trucs comme ça parce que j'avais le sport, quoi. J'avais le foot et tout, j'adorais. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est impossible d'allier les deux. Et même quand moi, j'avais été accepté, tu sais, en sport-études, bah, je crois, à l'époque, de mes brefs souvenirs, ma mère, elle disait qu'elle pensait que c'était faux, quoi. Il y aurait pas études. Il y a sport études dans le mot, mais en vrai, tu vas faire que du foot, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Ils vont dire, et tout le monde disait, ouais, non, mais vous inquiétez pas, le matin, il y a les études, et après, l'après-midi, ils font l'entraînement. Tu dis, mais attends, c'est pas possible. Ouais, ouais. C'est impossible.
Est-ce que c'est dommage ou pas? Tu vois, ce système est adaptable pour les sport études, ça veut bien dire qu'il est adaptable.
C'est clair.
Pour tout le monde.
C'est clair.
Et ça devrait vraiment, enfin, pas devenir une norme, mais c'est,
en fait. Une option.
Voilà, une option, ça pourrait être, enfin, faire les, un moment, je sais pas, faire le constat que peut-être ça fonctionne pas si bien depuis quand même pas mal d'années. Peut-être se dire, bon, est-ce qu'on porterait pas une réflexion un petit peu sur ce qu'on fait, est-ce qu'on pourrait envisager d'améliorer, tu vois, au final.
C'est vrai. Donc, là, dans d'autres pays, il y a, pour aller dans ton sens un peu avec, là, on est en train de faire un débat sur la réforme de l'éducation nationale, mais c'est pas le but. À travers ce qu'on dit,
voilà.
Ce qui est important, c'est les petites gemmes, tu vois, juste pour rappel pour ceux qui vont écouter ou regarder ça. Le sujet, c'est pas l'éducation nationale, c'est juste l'organisation du temps de vie entre la pratique physique et les études. Et ce qui peut être important de valoriser, tu vois, au lieu d'un classement par note, etc., peut-être valoriser les passions, les désirs profonds, la créativité et tout. Et pour aller dans ce sens-là, il y a des pays où justement ils ont des cours de cuisine, cours de méditation, cours de tout ça à l'école en fait. Et moi, je me dis, moi, quand je sortis même du lycée, là, tu sors du lycée, t'as 17, 18 ans. Mais techniquement, tu sais rien faire. C'est-à-dire que moi, je savais pas ce que... Tu vois, tu peux pas réparer une roue. Moi, je sais même pas comment ça marche l'électricité dans une maison. Non, mais tu sais pas faire de la plomberie. Tous les trucs qui sont utiles, tu sais pas les faire. Payer des taxes. Où est-ce qu'elle est la mairie? Et moi, j'ai pas été à la mairie avant mes 24 ans, un truc comme ça. Je savais pas où c'était la mairie. Tu dois googler. Où est-ce qu'elle est la mairie? Enfin, tu sais, tous les trucs où tu dis...
Je te jure.
Moi, jusqu'à... Mais je crois même, il y a 2-3 ans, je demande encore à ma mère, mais... Vas-y, je dois changer mon passeport. Il faut que j'aille où, tu vois?
Ça se passe comment,
le passeport? Elle me dit, ouais, il y a un truc qui s'appelle passeport biométrique. Je dis, pas depuis quand? Et tu sais, t'es tellement décalé de la réalité qu'au final, ouais, ce qui pourrait être peut-être utile de mettre, c'est des trucs, ouais, où tu fais des choses que tu vas faire dans la vie ou en tout cas qui vont peut-être demander, tu vois. Ne serait-ce que, enfin, je sais pas, avoir des cours d'écriture. Des cours pour se présenter, des cours de prise de parole. Moi, c'est le genre de cours que j'aurais aimé avoir, vu que je fais que ça.
Du développement personnel.
Ouais, du développement,
parce
en fait.
On nous fait pas faire du développement personnel. On nous part un peu complotiste. On nous prépare, les enfants sont préparés à l'entreprise.
Ouais, c'est clair. C'est clair.
Ils finissent à telle heure, ils ont une heure de pause, ils ont 20 minutes de break, c'est des
cours. Ils pointent.
Et puis, ouais,
ouais, c'est clair.
C'est que ça. On nous prépare vraiment, en fait, à être automatisé. Et c'est une façon, au début, au début, on était un peu des ovnis pour tous ces gens-là, tu vois. Tu sors de l'école, mais attends, t'as pas le bac, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Mais t'es fou, attends, il faut absolument faire des études, des choses, des machins. Et puis, plus tu parles avec les gens qui, bah, de notre âge, nos potes aujourd'hui, plus tu réalises que, bah, ils sont peut-être pas forcément heureux au final, parce qu'en plus ils ont suivi un peu des chemins de pression extérieure, tu vois. Si tu viens d'un certain milieu, bah non, tu peux pas être prof de PS. Si tu viens d'un autre milieu un peu plus populaire, bah non, tu pourras pas être médecin. Et puis du coup, on te rend des trucs dans le cerveau complètement incroyables, et alors que vas-y, on a des possibilités infinies et on est libre au final de faire ce qu'on veut, mais c'est tellement difficile d'accepter d'être un révolutionnaire aux yeux des gens, en fait, tu vois. Exact. C'est ça qui est hallucinant, c'est que si tu sors un petit peu de la norme, ben on te dit attends, attention garçon, tu sors des sentiers battus. Ouais. Sortez des sentiers battus, tu vois, justement. Éloignez-vous de tout ça, créez vos expériences, allez faire votre école, en fait. C'est un petit peu ça, même pas forcément. C'est large, hein, on parle même plus de l'école, mais c'est de tout, quoi. À un moment, il faut sortir de ces sentiers un petit peu battus où on nous fait croire que c'est la norme. Ça, c'est le concept de crise de la trentaine, crise de la quarantaine, c'est des trucs.
Ah ouais, mais c'est hallucinant, ces trucs.
C'est que des pressions extérieures te font croire que tu es en train de rater ta vie ou des trucs comme
c'est
ça,
clair.
Tu vois.
Moi, je te montre les mecs de 40 ans ici. Là, j'en parlais avec un de mes élèves. Les mecs de 40 ans, même 50 ans, il y en a un à la salle, mec. Il arrive, il a 50, je sais pas, 53, 54 ans. Il vient, il se met aux anneaux, il s'accroche à un bras. Sa femme s'accroche à lui, c'est comme un koala. Il reste comme ça accroché 3 minutes, tu vois. Et après, il change de bras et tout. Et le mec, il arrive, traction à une main, pompe, tu sais, de handstand. Le mec, le gymnaste, ouais. Tu vois. Le gars, tu dis, bah ouais, 50, lui, il a pas de crise de la cinquantaine. Lui, il est bien, ouais, tu vois. Non. Et après, tu sais, tu discutes un peu avec les mecs, c'est toujours des parcours en mode, ouais, bah, j'étais, je sais pas, au Panama, j'ai vécu là, j'ai ouvert un resto ici, après, j'ai tout lâché, je suis parti là. Et de ce genre d'histoire, t'as le mec, le voisin qui est, ouais, j'étais un ancien trader pendant 15 ans, j'ai tout quitté, je suis parti ici, bah, j'ai fait, je sais pas moi, une école de kung fu ou un truc comme ça. Et c'est que des trucs comme ça, et au final, tu dis, ouais, il n'y a pas un gars que tu peux caser dans une case, il n'y a pas de case, en fait. Tout le monde est multicolore, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est beau, et ça, c'est vrai que c'est passionnant, c'est inspirant. Et moi aussi, c'est pour ça que je veux faire ce podcast et partager ces histoires-là. C'est que tout ce qu'on dit là, c'est pas, il y a un bon chemin, il y a un mauvais chemin. Mais justement, c'est créer vos chemins, quoi. Il y a des chemins possibles. Il y en a plein. Il y en a pas de bons ou mauvais. Et moi, même s'il y a une époque où j'étais très, bah, tu sais, c'est quand tu découvres quelque chose de nouveau, t'as cette tendance à vouloir le prêcher, etc. Maintenant, je suis totalement en paix avec tout, en fait. Tu veux être salarié, tu veux marier des enfants à l'âge de 25, tu fais ce que tu veux. Tu veux tout lâcher, être athlète professionnel, fais ce que tu veux. Tu veux, genre, ne pas travailler pendant 3 ans et partir découvrir le monde et vivre avec ton sac à dos. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je suis en mode, mais en fait, tout est acceptable parce que dans la nature, il n'y a rien qui est défini, tu vois. Il n'y a pas de, tout est chaotique, quoi. Tu fais vraiment comme tu veux. Donc, bah, vas-y, quoi, explore.
C'est énorme. Bon, voilà, c'est que, explore. Il y a ce proverbe, moi, que j'aime bien, pour en revenir un peu aux mots et tout. Parce que il y a ta vérité, il y a ma vérité et il y a la vérité. Et pour se rapprocher de la vérité, chacun de nous doit enlever un peu de sa vérité. Et c'est complètement ça, c'est qu'à un moment, alors, on est des passeurs, on ne détient rien, ce qu'on donne nous appartient, ce qu'on garde est perdu à jamais. Et moi, je suis vraiment dans cette philosophie, tu vois, c'est que je suis, au début, j'étais un peu ça, dans le jugement, dans le conseil, dans non, mais attends, fais ça, c'est super. Et en fait, maintenant, non, si ça marche pour toi, fais-le. Si ça marche pas pour toi, par contre, oui, pose-toi des questions et peut-être oriente-toi et va voir des choses différentes. Mais il n'y a pas de savoir absolu. Ce qui marche pour moi ne marche peut-être pas pour toi. Ce qui marche pour toi ne marche peut-être pas pour moi. Mais c'est pas pour autant que, voilà, on sera dans le jugement, mais on accepte vraiment ce que veulent les gens. Parce qu'au final, ce qu'on veut, moi, je veux que le monde soit heureux et que les gens soient heureux.
Amen.
Mais pour ce faut, je pense, on en revient un petit peu à ce début, il faut s'écouter, il faut se connaître. Et c'est très difficile de se connaître, c'est très difficile. Déjà aussi, le bonheur fait peur, le positif fait peur. On est plus malheureux dans son malheur, mais en étant heureux, parce que du coup, on se remet jamais en question. C'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre, c'est lui, c'est un tel, c'est machin. De toute façon, j'ai pas de chance, de toute façon, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est nous qui créons notre réalité. Il y a tes croyances créent ta réalité, tu es tes croyances et ça crée des nouvelles réalités, tu vois. C'est vraiment ça, en fait. C'est qu'à un moment, il faut briser ce qu'on nous a appris. C'est un process super difficile. Je suis dedans encore. Je dis pas que j'ai réussi, etc. Mais il y a quand même ce concept d'un moment de prendre conscience bah, tu es ta propre conscience, en fait, c'est ça, tu vois, et que c'est à toi de prendre tes chemins et d'essayer tes expériences, et qu'il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de mieux que se rater, en fait, tu vois, en plus. C'est, moi, je suis dans l'éloge de l'échec aussi, tu vois, je trouve qu'il n'y a rien de plus formateur que l'échec. Amen. Réussir toute sa vie, c'est top, hein. Ceux qui réussissent tout du premier coup, ça monte. Mais le jour où t'as un échec, bah, t'as jamais été confronté à l'échec. Tu sais pas gérer une crise. Et si t'es pas solide, bah, tout s'écroule. Parce que du coup, tout le cheminement et tout ce que tu croyais être, cet être merveilleux qui réussit tout, qui n'a pas de défaut, qui n'a pas de faiblesse, bah, non, on a tous des peurs, on a tous des démons, on a des vices et des vertus, et voilà, on avance avec. En essayant d'être 1% meilleur chaque jour, quoi. Moi, c'est ça aussi mon mindset, quoi. C'est, on a une vie, tu vois, on a une vie. Je nous souhaite à tout le monde de vivre. Moi, je vais avoir 32 ans. J'espère que dans 60 ans, je suis encore là, tu vois. Donc, donc j'ai le temps d'évoluer. J'ai le temps d'évoluer. Et on en reprend cette société de consommation qui te fait croire que non, tu n'as pas le temps. Dépêche-toi. C'est maintenant. C'est tout de suite. Et on le voit dans le yoga, on en parlait
avec Einstein.
Tout le monde veut ses handstands, tout le monde veut ses grands écarts, tout le monde veut ses trucs, tout le monde veut ça vite, tout de suite. Attends, calme-toi, Coco. Crois pas qu'un équi, ça s'attrape en 3 séances. Alors oui, si tu veux, on le fait en 3 séances, hein. Mais ton équi, tu l'auras, du moins l'évolution que tu peux avoir sur un équi. Marcher, faire des tours sur des mains, enfin, être à l'aise même après dans des équis, dans d'autres positions, machin, bah, tu l'auras jamais, en fait, parce que ta base n'est pas propre. Et c'est comme, voilà, tu veux monter un building de 120 étages, si ta structure, elle est pourrie, bah, tu montes 2 étages, 3 étages, puis ça devient bancal, et au 10e,
exactement, c'est cool. Exactement. C'est cool. Tiens, parle-nous un peu plus, là, de, je pense que c'est très puissant. Bon, là, c'est l'exemple, parce qu'on en parlait hier, là, de cet exemple des gens qui veulent atteindre des équilibres, là, au yoga. Et après, tu nous feras peut-être le, bah, comment toi, justement, t'es passé de la gym au yoga et ce rapport-là. Mais là, maintenant que t'es dedans, pour une petite remise dans le contexte, t'enseignes le yoga. Et justement, comme toi, les gens peuvent te voir sur les réseaux et ils voient ton background de gymnaste, donc ils voient les équilibres, tu sais, les pecs, les push-ups, etc. Ils viennent vers toi avec l'intention de, comme d'habitude, donne-moi ça tout de suite, tu vois. Et donc, toi, c'est quoi un peu, pourquoi cet exemple-là d'équilibre, il est assez marqueur, il est assez, je pense, il traduit bien là, tout ce qu'on essaye un peu de dire. Comment toi, tu l'as, c'est quoi ta relation avec cet exemple-là? Est-ce que c'est un truc qui vient souvent et donne-nous le point de vue là que tu nous.
Vraiment, et puis surtout, c'est. Alors après, je jette la pierre à moi-même, déjà en premier, et après à pas mal aussi d'autres enseignants. C'est que on ne prend pas forcément aussi le temps d'expliquer qui on est vraiment. Mais parce qu'on en revient à ça, Instagram ne te donne pas le temps forcément d'expliquer qui tu es.
Exactement.
Donc en gros, peu de gens, je pense, savent que j'ai commencé la gym, je pense, à 7 ans et que j'ai quitté le monde de la gym à 30 ans.
Ouais.
Donc ça fait un sacré panel de temps en tant qu'athlète, en tant qu'entraîneur. Donc j'en ai fait des équilibres. J'ai été plus à l'aise à marcher sur mes mains que sur mes pieds très rapidement, mais parce que voilà, il y a des heures et des heures et des heures derrière des entraînements et des entraînements. Même quand les entraîneurs ont dit qu'on est jamais, on devient jamais expert en gym, du moins. Tu vois, tu deviens jamais expert. C'est que même les mecs de haut niveau, ils font un passage, bah. Fais gaffe à ci, fais gaffe à ça, pense à ci, pense à ça, attention, le truc, l'équipe, t'as les épaules fermées, tata, tita, tita. La perfection, elle est atteignable que si tu la rêves. Et du coup, c'est ça qui fait toujours aller plus haut. Et pour moi, la perfection, on ne l'atteindra pas. Mais c'est un mindset, tu vois, c'est un état d'esprit à avoir. Et pour en revenir sur les équipes, moi, j'ai des souvenirs de circuit training. Donc, le circuit training, pour ceux peut-être qui connaissent pas, c'est à peu près 10, 12 ateliers, machin. On faisait que des placements. C'est-à-dire qu'on n'était pas à l'équilibre. On faisait que décortiquer le mouvement. Tu travailles d'abord la position des pieds au sol, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, je l'ai fait peut-être pendant, je l'ai fait au moins mes 3 premières années de gym. C'était le circuit classique, tu vois. Et après, oui, peut-être, vas-y, avec l'entraîneur, tu fais un peu d'équi et tu kiffes. Mais avant vraiment de, qui nous disent, OK, équi, bam, maintenu, machin, bah, tu passes du temps, tu vois, tu passes du temps. Et je pense que ça, les gens l'oublient complètement à cause aussi d'Instagram et au fait que, je vais arrêter de dire nous, parce que je veux dire je, parce que moi, j'ai pas pris forcément le temps d'expliquer qui j'étais, que j'avais beaucoup de gym derrière et que c'est pour ça que je peux m'éclater, balancer mes équis, faire mes trucs, mes machins.
Exact.
Et les gens débarquent sur Insta, voient ça. Ok, vas-y, je veux un équipe, man. Comment ça se passe? Bah écoute, ça va nous prendre 2-3 ans, je pense. Comment ça?
Exactement. Merci, mon prospect.
Ça va être long, quoi. Donc, prends ton mal en patience, Coco, parce que Mais on en revient à ça. Si tu veux, je te le donne vite fait. Hein. Mais exactement. Ça, c'est peu d'évolution derrière, en fait. Et c'est ça qui n'est pas intéressant. C'est que,
moi, c'est pareil.
Oui, tu vas avoir tout de suite. Ouais. Mais vas-y, prends le temps, man. Il te reste 60. Allez, selon les âges des gens, tu vois, il te reste plein d'années. Plein d'années. Et je trouve que voilà, tu prends le temps de construire. Et après, le jour où vraiment tu fais ton équipe, bah là, tu vas bugger parce que bam, il est planté, il est là, il bouge pas. Et tu redescends, tu te dis, ah ouais.
Écoute, moi je prêche la même chose et je vais reparler là de ce même élève là qui m'avait fait penser là au truc de tout à l'heure. C'est que lui aussi, tu vois, il vient d'un background où il a fait énormément de sport, énormément de crossfit, tu vois. Et quand je l'ai récupéré, il savait ni placer un pistol squat ou un Cossack squat. C'était genre au crossfit, il y a que ça, il y a du squat et des pistoles, je veux dire. Mais il a fait de la compète et tout, tu vois, sans les avoir. Et on reste 3 mois ensemble. 3 mois, il les passe. Il dit, mec, mais on m'a jamais en fait appris à prendre le temps. T'arrives dans la séance, au bout de 2 séances, on te dit bah soulève plus lourd, va à la perf max, et en fait et tu fais que ça, et t'es dans le mood bah ouais je vais gagner des chiffres et tout, mais prends le temps mec. Et là lui, parce que il a évidemment la rigueur, la discipline, et il avait déjà aussi un background de sport, donc c'est pour ça que ça allait aussi vite. Mais en vrai, quelqu'un qui a jamais eu un pistol squat ou même un deep squat, tu vois, et moi je l'enseigne le deep squat, tu vois, j'ai des formations dessus, j'écris direct, hey les gars, si vous pensez que vous allez l'avoir dans 4 semaines, ça dépend vraiment d'où tu viens. Si tu es quelqu'un qui n'a pas bougé depuis 50 ans déjà et que tu as des hanches, elles sont complètement fermées et verrouillées, n'espère pas avoir un deep squat en forçant. Après, comme tu disais, je peux te l'enseigner en forçant. Bah, je te mets là, je t'écrase, tu vois. Par contre, ta colonne, ce qu'elle va prendre, tes épaules, ta nuque, tu vas jamais pouvoir t'en remettre. Mais si tu en veux un vrai, un bon, un propre, que tu tiens mais une heure, que tu peux fumer une cigarette, lire un bouquin, machin. Bon, peut-être le fumer la cigarette n'est pas le bon exemple, mais façon de parler, tu vois. Eh ben, au moins, ça va prendre du temps, mais ouais, comme tu le dis, prends 1, 2 ans, 3 ans, et ton équilibre, et ton, même moi, ton thoracic bridge, ta marche du singe, il y en a, ils le font au bout d'une semaine, ils disent, vas-y, je veux la suite. Non, mais attends, mec. Moi, j'en ai bouffé, mais des années. Rien que des marches de chat, tu vois, des pas de chat. Mec, j'en ai bouffé des années, j'en bouffe encore. Pas parce que je le maîtrise pas, mais c'est comme tu dis, une fois que t'as un mouvement, après tu l'auras jamais parfait, donc en fait le reste du temps tu vas essayer de le maintenir déjà, étape 1 le maintenir, et quand tu le maintiens tu essaies de le perfectionner petit à petit, mais en fait il faut, si tu l'arrêtes ça se perd, tu vois, évidemment pas immédiatement, c'est pas comme le vélo, voilà, mais ça se perd, ça se diminue, la qualité diminue, le risque de blessure augmente, tu vois, tu fais de moins en moins attention, t'es moins connecté, etc, etc. Donc il y a ce plaisir dans la praxis, tu vois, dans la vraie pratique consciente de ta physicalité, de prendre le temps et de trouver du plaisir à prendre le temps. C'est ça qui est compliqué. Les gens, comme tu disais, grâce à Instagram et aux autres formats qui te donnent tout de suite la chose que tu demandes, même Google, tu tapes, il y a la réponse. Rien que ce truc-là, t'as le plaisir que de recevoir la réponse, et donc t'as la dopamine quand il y a la solution. Mais on n'a plus ce plaisir de rechercher. Et donc quand t'entends des histoires comme, je sais pas moi, Edison qui a fait, je sais pas moi, 3000 ampoules avant de découvrir l'ampoule, tu te dis, mais mec, c'est un ouf, tu vois. Il a mis des années. Mais oui, mais en fait, il y a du plaisir dans la patience. Il y a du plaisir dans le faire et de ne pas l'avoir. C'est ça que les gens, il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ce concept-là. Mais par exemple, tu demandes même à un bodybuilder, il va te dire, c'est exactement ça. Les bodybuilders que tu vois en compète et tout, il y en a, ils passent 7 ans sur leur corps, tu vois, à sculpter chaque fibre. Ils te disent, mec, il faut vraiment tous les jours, il faut taper des benches. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'autre à faire. Si t'aimes pas ce truc-là, t'auras pas le résultat, tu vois. Ouais, il faut vraiment trouver un moyen d'aimer travailler, quoi. D'aimer charbonner, d'aimer être dans, je ne l'ai pas encore, mais je suis dans le processus. Et aimer le processus. Parce que le résultat, il n'est jamais satisfaisant, de toute façon. Il n'est jamais satisfaisant, le résultat. Jamais.
Même au troisième étage, bah, tu passes par le rez-de-chaussée avant. Tu vas pas faire, ok, troisième étage.
Exactement ça.
Voilà, rez-de-chaussée, donc la base. Voilà, tu reprends ta base et puis ta base va évoluer. Mais il faut jamais oublier la base. Et c'est ce que tu me disais, tu vois, toi, tu vas prendre des cours de boxe, tu dis à personne ton background. T'es là, le prof il dit ok, gauche droite, on a peut-être fait des milliards de gauche droite, bah t'exécutes, vas-y, gauche droite,
ta base,
je fais ma base.
Il y a que ça à faire. Ouais. C'est clair.
Je pense qu'on a tendance à l'oublier, quoi, parce que plein de choses, parce que la société, parce que si, parce que ça, et parce que bah on prend pas le temps d'expliquer. Mais après, est-ce que aussi les gens veulent savoir ton background? Est-ce qu'au final même ça les intéresse, parce qu'ils veulent tellement le Non, je veux un équipe, je m'en fous. Vas-y, qu'est-ce que t'as fait, ça m'intéresse pas. Donne-moi un équipe ou ouais. autre chose, tu vois. Ouais, mais il y a aussi ce côté-là. Est-ce que, en fait, est-ce que les gens veulent être éduqués ou est-ce qu'ils ne veulent pas être éduqués et comme ils veulent juste le résultat, la dopamine.
Bah, moi, fondamentalement, tu vois, moi, j'ai pas vraiment de réponse, mais j'aime à croire qu'il y a, il existe encore un groupe qui résiste à l'envahisseur, tu vois, en mode à la Astérix. Mais en vrai, moi, je pense que ce groupe-là, c'est la majorité. Sauf que, comme pour toutes les choses, c'est la majorité silencieuse. Je pense que, mais honnêtement, après, c'est mon intuition. Après, peut-être qu'elle est biaisée parce que moi, je parle qu'avec des gens comme nous et que même dans mon audience, les gens, ils sont comme nous, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est nous la majorité en vrai. C'est pas parce qu'on nous voit pas à la télé, qu'on nous entend pas sur toutes les radios, les podcasts, que en fait on n'est pas la majorité. Je pense que tu vois sur 70 millions de Français, eh ben ouais, la majorité en fait c'est des gens qui ont du bon sens. Sauf que on les entend pas, et ils en parlent pas. Mais tu vas jamais, enfin, ce que tu vois à la télé des pseudo-experts etc ou des trucs, en fait ce groupe-là de gens tu peux les compter. Il y a combien de gens qui travaillent à la télé ? Il y a un chiffre précis. Et ben le reste des gens c'est qui ? Ben c'est nous le reste des gens. Et le reste des gens, à chaque fois que tu parles, et ben généralement, au bout d'un moment, il y a du bon sens qui arrive. Le gars, il dit, bah oui, le menuisier, l'artisan, le machin, il dit, bah ouais, moi, j'ai mis 15 ans avant d'avoir ça. Bah, c'est logique que ça prenne du temps, tu vois. Et même les gens qui pourraient être, on va dire, par des moyens marketing, etc., pourraient être un peu dans cette idée de, ah, bah, je veux le truc, je veux d'abord le résultat. Après, il y a le retour du concret. La blessure quand elle arrive, le l'âge quand il arrive, le poids, etc., ça te fracasse tellement que tu te dis, bah non, en fait. Là, je suis en train, pour quelque chose que j'ai essayé d'avoir en 6 mois, et ben là, je suis en train de payer 2 ans de kiné, en fait, toutes les semaines, tu vois.
Voilà, c'est ça qui est génial.
Voilà, c'est qu'au moins, il y a le dur retour du concret qui te dit, mais non, en fait, c'est pas censé arriver en 6 mois, point barre. Et voilà. Et donc, de toute façon, au final, que ça soit sur le moment ou quelques années après, il y a, pour tout le monde, on en revient à la même chose, c'est ouais, mais en fait, il faut prendre du temps pour faire les choses, tu vois. Ouais, après, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est donner cette vision-là juste plus tôt. Au lieu que tu attendes que tu aies 45 ans, que tu aies déjà une hanche remplacée, une épaule fracassée, tu aies déjà 14 opérations chirurgicales, nous, on essaie de la ramener plus tôt, tu vois.
Plus tôt.
Voilà, c'est tout. Mais
de conscience. Et puis de toute façon, quand on passe nos diplômes, enfin moi, j'ai des BPJEPS, donc je vais arrêter de dire tu vois, c'est mon grand défaut. Quand je passe mon diplôme, moi, sur ma carte professionnelle, il y a écrit « éducateur sportif ».
Ouais.
Éducateur, c'est de l'éducation. Il n'y a pas écrit coach sportif, il n'y a pas écrit préparateur physique, même si après tu le deviens machin, mais notre base, on est des éducateurs. On ouais. est des éducateurs. Éducateur, c'est éduquer, c'est l'éducation, c'est apprendre aux gens. Et c'est ça, je pense, aussi l'erreur, c'est qu'on en oublie souvent. Il y a cette phrase que j'aime bien, the starting point is the student needs, not the teacher needs, tu vois.
Et exactement.
C'est là où dans la. Dans le monde, on va dire, c'est ma vision encore une fois. Moi, je pense qu'il y a deux sortes de personnes. T'as les gens qui sont là pour servir les autres et t'as ceux qui sont là pour servir leur ego. Et quand t'es là pour servir ton ego, ouais, ça va être cool, mais tu vas pas donner avec le cœur. C'est pas le même rapport. C'est, ouais. Ça n'a rien à voir que quand tu es là pour servir les gens. Et encore, il y a une différence entre servir et aider. Et quand tu aides, c'est encore différent de servir. Mais quand tu sers, c'est un vrai concept de tu n'attends rien en retour. Quand tu aides, tu penses que bah t'attends quelque chose en retour.
Ouais.
Tu aides avec ta propre force. Donc tu vois quelqu'un qui est un petit peu plus faible que toi. Quand tu sers, ce man il fait partie du cosmique,
exact.
Du monde, tu vois.
Exact.
Et donc pour moi il y a une réelle différence aussi. Et servir, c'est quelque chose où bah vas-y, t'es tout petit en fait. Ton ego tu le laisses tranquille.
Exactement.
Tu es humble et tu sers. Et du coup c'est pas facile je pense d'être au service de la vie. Donc, j'invite les gens à lire « Au service de la vie » de Rachel Naomi Remen. C'est un texte merveilleux où justement, elle explique la différence entre servir, aider et réparer. Et c'est vraiment très fort, c'est vraiment très fort. Et ce texte, moi, m'a aussi beaucoup changé dans ma façon d'enseigner et de voir un petit peu l'enseignement parce qu'au début, bah, t'es un peu dans l'ego quand tu commences, tu vois, mine de rien, parce que c'est valorisant d'avoir des groupes d'élèves, d'entraîner, de les faire progresser, de les amener d'un point A à un point B, c'est super cool. Mais si tu le fais en servant, c'est encore différent et c'est encore
absolument.
Un rapport qui est encore plus fort et plus exceptionnel, quoi.
Absolument.
Donc, il faut être au service de la vie. Et la vie, c'est tout le monde, tu vois. Tout le monde. C'est tous, quoi.
Amen.
On finit son texte par, ta joie et ma joie, ta peine et ma peine. Et c'est peut-être un peu, un peu ukulélé, tout ça. Mais
bienvenue, c'est le podcast, mon ami. C'est le truc des hippies woo-woo, ouais. C'est ici, tu vois. Ça parle de bagarre et ça parle de se mettre des entraînements de ouf. Et après, ça parle de hippies woo-woo et dont les autres. Mais non, mais fondamentalement, c'est vraiment ça. T'es exactement dans le thème, mon frérot, t'inquiète. C'est ça, c'est montrer que par des expériences qui peuvent être très difficiles, très dures, des douleurs, etc., t'en arrives à ces choses qui maintenant, elles aussi sont marketées comme étant hippie, wouhou, c'est pas la vraie vie, c'est pas le vrai monde. Le vrai monde, c'est Wall Street, c'est écraser mon voisin pour réussir, etc. Non, tout ça, c'est des films, c'est des illusions. C'est pas la nature, ça marche pas comme ça. Le monde ne marche pas comme ça, tu vois. C'est ce qu'on nous vend, tu vois. Mais enfin, y a rien de concret là-dedans dans cette course à écraser l'autre et à essayer d'avoir des classements de plus en plus haut. Enfin, tu vois. Mais après voilà, chacun son chemin de vie pour y arriver ou pas. Mais
on n'est pas là pour juger les uns les autres.
C'est clair, c'est clair. Voilà, après chacun ses étapes dans la vie. Nous, quand on parle de tout ça. C'est parce que, comme tu le disais aussi, on passe pas énormément de temps à parler notre background. Moi, j'essaye de le distiller un peu dans chaque épisode, mais c'est parce qu'on a fait ces trucs complètement dans l'ego, tu vois. On les a fait et on y allait loin, tu vois. On s'est vraiment mis des tarifs, quoi. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, nous, on sort de ça. On sort d'aller dans l'excès et en fait, tu te sors vide, vide, blessé et... Après oui, il y a des moments où les gens, tu sais, t'as des gens par exemple qui rêvent de la vie d'un athlète, etc. Parce qu'ils voient ce qui est bien de la vie de l'athlète ou la vie de l'artiste ou la vie de l'acteur, etc. Ou la vie du millionnaire, etc. Oui, oui, non mais il y a énormément de bien là-dedans, tu vois. Et ça vaut la peine de le faire. Et moi, j'encourage tout le monde à faire, à vivre la vie qu'il a envie de mener. Mais il y a aussi tout ce côté où bah ouais, en fait c'est pas bien quoi. Enfin c'est chiant, c'est dur, c'est traumatisant, la solitude, machin. Et donc nous, comme on a fait ces expériences-là par le sport et par la compétition sportive ou d'autres invités par l'art, etc., ben c'est vrai que quand on sort, on arrive un peu avec les mêmes indices que bah ouais, peut-être en fait essayer de servir l'autre, ça peut être peut-être plus satisfaisant. Essayer de moins penser à ce que moi je vais retirer des choses, ça peut être aussi beaucoup plus zen, tu vois. Et ouais, c'est ça. Ouais, c'est aussi simple que ça, tu vois. Mais là, pour en revenir, ouais, vas-y, je te laisse.
C'est une petite phrase, quoi. Quand on enseigne, on devient l'élève. Et l'élève devient le maître, en fait. Et moi, j'aime bien avoir cette vision-là, tu vois. C'est que, en fait, si tu restes maître avec ton élève, bah, tu vas pas ouvrir tes champs des perspectives. Tu vas rester dans ce que t'as appris. Genre, un squat, c'est comme ça. Et si lui, bah, il fait pas ce squat comme ça, tu vas dire, oh, c'est l'élève qui est nul. Ben non. C'est inverse le process, tu vois. Mets-toi élève et laisse l'élève être le maître. C'est lui qui t'apprend des choses de par son corps, sa façon de bouger, de se mouvoir, qui au final est différente de chaque élève. Donc, pour moi, chaque élève, en fait, c'est des maîtres. Tu vois, quand tu reçois des textos des clients, des élèves qui te disent merci, ben, moi, je dirais merci à toi. Tu sais pas que moi, chaque séance, je ressors grandi aussi.
En fait,
parce que tu m'apprends des choses. Tu m'apprends des choses. Et je pense que c'est super important de se remettre en question. Se remettre en question, c'est quelque chose de difficile, mais c'est quelque chose de tellement important, tu vois.
Ouais.
Moi, j'en ai quitté le monde de la gym un peu à cause de ça. Je voulais faire de la performance au niveau ou ce que tu veux à travers le développement personnel. Et ouais. J'en reste persuadé qu'on peut faire du haut niveau avec humour et avec amour. Et on est dans un concept... qui est totalement opposé, du moins dans la gym, on n'est pas dans ce concept-là. Moi, dans la gym, j'étais genre un clown, alors que mes élèves étaient heureux comme pas possible, les résultats étaient là. J'ai quitté le monde de la gym, bah, le club où j'étais, il y a de plus en plus d'élèves qui ont arrêté la gym, tu vois.
Ouais.
Parce qu'on est dans un milieu où ça vient du monde militaire, on a été fan des Russes, des Chinois, qui sont très durs dans le mal, et donc on est persuadé qu'il faut être dur dans le mal, que c'est important, que t'as pas le droit de montrer de faiblesse, qu'il faut pas communiquer avec ton élève, quelles sont tes envies, quels sont tes besoins, sinon t'es un entraîneur faible et que, non, pas du tout, je suis un entraîneur qui communique, qui est dans l'échange, dans le partage pour le bien-être de mon athlète. Et en fait, je suis descendu de mon podium. Voilà, j'ai pas eu une carrière de gym peut-être comme je l'aurais souhaité, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis pas là pour prendre une revanche et faire en sorte que ces gyms soient exceptionnels et qu'on fasse que des podiums. Tu vois, j'ai aucun souvenir de mes podiums. J'en ai pas fait beaucoup en tant que gymnaste, mais j'ai aucun souvenir. Je me rappelle pas si j'ai fait une médaille, pas de médaille. Je me rappelle des rigolades de mes entraîneurs, de mes entraînements, des pleurs,
des chutes, des blessures.
Et les podiums, je me rappelle pas. Et c'est pas le plus intéressant. Et je pense que c'est pas ce qu'on garde de notre pratique sportive, tu vois. Moi, enfin, du moins, moi, ce que je garde, c'est vraiment ce côté. J'étais dans une école. J'étais dans une école de la vie, de la camaraderie, du travail, de la rigueur.
Ouais.
Et c'est ça que j'en garde vraiment. Et c'est ce qui, après, bah, te donne un peu la personne que tu étais. Et les podiums, on s'en fout, tu vois. C'est cool de faire des podiums. Qu'on serait aux États-Unis, ça serait super intéressant, tu vois, comme on a dit. Parce que oui, ça t'ouvre des possibilités, des perspectives qui sont super intéressantes. Mais moi, j'étais dans un club de gym avec des champions de France. Dans des niveaux quand même assez intéressants. En gym, t'as des ligues, on va dire, un peu comme au foot. Et j'avais des potes qui étaient quand même dans des ligues qu'on pourrait qualifier de professionnelles, mais dans un cursus, comme on disait, ils ont cours toute la journée. Ils ont jamais rien eu, tu vois, pas de convocation à la mairie pour leur dire merci, vous avez représenté la ville. Pas de, enfin rien.
Ouais,
en fait,
bah, c'est
rien,
clair.
Tu vois. Rien. Donc, c'est des trucs de passionnés et c'est difficile pour les gens autour de nous de comprendre cette passion, en fait. C'est ça aussi ce qui est difficile, c'est que les gens comprennent pas, mais pourquoi tu, moi, j'ai fait des entraînements, mais bénévolement, les samedis, les dimanches, je me démerdais pour trouver un club où je pouvais avoir un accès à du matériel que j'avais pas dans mon club. J'appelais la gym, ouais, tac, tac, t'es chaud demain, on y va, ouais, on y va, tac, tac. Ma copine de l'époque, elle me disait, mais qu'est-ce que tu fais, t'es même pas payé et tout. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave, vas-y, on y va, et tac, et vas-y, et on y va, tu vois.
Karma parce point.
J'adore ça, tu vois.
Ouais, c'est oui. Clair, mec, c'est ça, c'est karma point, mon pote. Tu mets des points dans le karma, tout ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est un truc de passionné, et tu démarres là-dedans ou t'as ça assez tôt, je pense, dans ta vie. C'est vrai que je pense que ça peut être un facteur qui va t'aider à remettre en question l'organisation de ta vie de manière globale, vu que t'as déjà goûté à un monde, comme tu le dis, qui est loin de la transaction monétaire, tu vois. On a tous fait ce genre de trucs gratuits, tu vois. Même moi, quand j'étais au foot, mais gros, il y a plein de fois, tu te déplaces, bah, c'est à tes frais, t'es dans une voiture, il y a 6 autres mecs, mais comme ton papa, c'est le seul qui a la voiture, bah, on y va. Et c'est que des trucs comme ça et comme de galère, en fait, tu vois, c'est du truc, tu dis, mais hey, pourquoi vous faites ça, vous êtes pas payé, on s'occupe pas de vous, les maillots, tu dois les ramener, tu dois les laver chez toi, tu dis, mais c'est quoi ce club, tu dis, c'est quoi ce délire? Et après, quand t'atteins à un moment où t'as ton club qui t'organise des trucs, c'est cool, tu vois, mais au final, comme tu dis, ce que tes souvenirs, c'est que les moments de galère à partager ça, à partager un sac, partager des protège-tibias, mec. Nous, on partage des protège-tibias. Il y en a un qui sort, donne les protège-tibias à l'autre, il rentre. Et tu sais, c'est que des moments comme ça de solidarité, de camaraderie, d'entraide. Et c'est vrai que ça aussi, ça fait partie un peu des choses que j'aime bien partager avec ce podcast-là aussi, comme la plupart des invités ont un gros background d'athlète. Et ben, c'est vrai qu'il y a ça dedans, ce qu'on voit pas, même pour les sports individuels comme les sports de combat, il y a énormément de bienveillance et d'amour et de partage. Par exemple, quand tu prépares un combat ou peu importe, les gens qui t'accompagnent, c'est des mecs qui s'entraînent. Ils ont pas que ça à faire, mec. C'est dimanche ou c'est samedi soir. T'es le dernier combat et t'es comme ça. Le mec, il t'accompagne, il prend le scoot, il fait la sèche avec toi. T'as deux mecs dans une salle de bain, t'es comme ça, t'es en train de pleurer dans une baignoire et t'as deux mecs avec toi. Ils ont autre chose à foutre. Ils ont des parents, ils ont des copines, ils peuvent faire autre chose dans leur vie. Mais ils sont là. Et toi aussi, t'es là quand c'est leur tour. Et toutes ces petites choses-là, tu vois, qui, au final, si tu prends un cursus qui est peut-être autre, et qui est pas relié au monde et au rapport au corps et au rapport à l'autre, comme pourrait l'être, je sais pas, des études ou un truc comme ça. C'est vrai que les gens, tu peux les percevoir tu peux percevoir qu'ils sont un peu plus froids, un peu plus austères. Tu vois, parce qu'ils sont élevés, ils sont éduqués dans cette idée, tout est compétition. Ah non, je te montre pas, je te donne pas. Alors que c'est vrai, quand t'as ce background sportif athlétique, et après, quand t'as les deux, c'est bien, c'est un très bon équilibre. Mais c'est vrai qu'en fait, tu connais que ça. Moi, tout ce que j'ai connu dans ma jeunesse avec le sport par rapport à avec l'école, c'était mes potes. Et avec le sport, c'était ma tribu, c'est mes frères et mes sœurs, tu vois. On s'appelait frères et tout, machin. C'est la famille, quoi, tu vois, tu demandes. Et même la manière, le langage, etc., même s'il peut apparaître un peu, tu sais, voyou, racaille, etc., au final, il y a un vrai, comme on parlait, tu sais, du poids des mots, il y a un sens que tu perçois peut-être des années plus tard aux mots frères, etc., que t'oses pas te dire à l'école, mais pourtant, avec eux, t'as l'impression que tu vas à la guerre, en fait, ensemble. C'est ton soldat, c'est le mec, tu comptes sur lui, quoi. Et comme t'es vraiment, enfin, dans les sports collectifs, ça qui est bien, c'est que t'es physiquement dépendant du mec, tu vois. C'est-à-dire que t'es un défenseur, mais s'il te donne pas la balle, t'as pas la balle, tu vois. Donc, au final, il faut s'aider, il faut se soutenir, il faut communiquer, il faut, donner de la bonne énergie, soutenir ton pote, le pousser pour aller plus loin. Son succès, c'est ton succès. Et comme tu disais tout à l'heure, sa joie, c'est ta joie, sa réussite, c'est ta réussite, sa peine, c'est ta peine. Et ce truc-là, ce bonding, cette création du lien social, c'est vrai qu'à travers la pratique physique, elle est très forte, sport individuel ou non, tu vois. Et Là aussi, on fait pas l'encens de la pratique physique par rapport à l'éducation traditionnelle, mais simplement on propose, comme pourrait être l'art, la danse, la musique, hein, c'est pareil, c'est des choses où en fait tu te rassembles autour de quelque chose que t'aimes et t'es dans un orchestre, et ben oui, le succès du mec à côté, c'est ton succès, parce que sans lui, tu peux pas faire de la musique, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant, et aujourd'hui, comme nous, on a passé la barrière, et maintenant, on est dans l'enseignement, c'est vrai qu'on l'a moins, tu vois. Et pour revenir à ton exemple, à des équipes, des gens qui cherchent un peu juste le résultat, et rapidement, toi, ayant fait cette transition de la gymnastique, et quelque chose, comme tu disais, dur, le background un peu militaire, carré, les protocoles d'entraînement, la force, tu vois, moi, j'en suis en permanence, c'est le truc le plus dur, c'est la gym, tu vois. Un des trucs les plus durs, c'est la gym et les entraînements de gym. Tu passes de ça au yoga. Quelqu'un qui connaît pas et qui a un peu l'image traditionnelle du yoga, c'est la petite meuf de 20 ans qui a fait ses 200 heures, qui a son leggings Gymshark, qui fait des photos Insta avec son petit smoothie bowl vegan. Comment tu passes de ça à ça, mon ami? Dis-nous tout.
Complètement. Bah, en fait, on va dire mes deux dernières années de gym, mes deux, trois dernières années de gym en tant qu'entraîneur, c'était très compliqué. On était à deux sur l'équipe de le groupe. Donc, moi, j'ai entraîné que des filles. Donc, on était à deux sur un groupe féminin. Et ça se passait très mal parce qu'on n'avait pas du tout la même vision. En fait, moi, j'étais plus dans ce développement personnel à travers l'humour, amour, on va dire. Et mon coworker n'était pas trop dans cette démarche-là. Donc, on va dire 2-3 années où déjà, je commence à me dire, OK, bon, peut-être que la gym me correspond de moins en moins dans son approche, dans sa manière d'être. Je deviens ambassadeur pour une marque qui est très présente dans le yoga. Et j'ai la chance en fait de recevoir, c'est quand même assez fou je trouve, deux semaines après avoir été nommé ambassadeur pour cette marque, je reçois un mail, ils font une formation de yoga ouverte aux ambassadeurs à travers le monde et aux vendeurs à travers le monde. Je réponds au questionnaire en mode, vous faites du yoga? Pas du tout. Vous méditez? Pas du tout. Je réponds en fait avec une franchise mais totale, tu vois, mais avec quand même cette envie de, non mais ça m'intéresse, non je médite pas mais j'aime ça. Nanana, je sais pas combien de temps après, je reçois You've been selected. Et je suis là, what the fuck, ok. I've been selected. Donc je suis là, ok. Et en fait, ce yoga teacher training de 200 heures a complètement changé ma vision de la vie, la perception de mon corps, la connexion esprit, m'a conforté aussi dans le chemin que j'étais en train de prendre. J'ai réalisé que toute ma vie, j'ai fait de la visualisation à travers la gym. Tu fermes les yeux, tu imagines tes mouvements, tu bouges ton corps, ouais. Clac, 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 tu piques tes réceptions, tes trucs. Encore une fois, je reviens de cette formation de yoga. Le grade un petit peu pour les entraîneurs, c'est les championnats de France. J'arrive dans mon club, je suis dans une grosse transformation. J'arrive avec des tresses pour justement être dans des concepts de, ok, tu vas dans les extrêmes, tu sais que les gens vont te dire c'est pas beau, t'es moche, mais vas-y, tu gardes tes tresses, passion qui tu es, tu gardes ça pour une semaine. Vas-y, c'est un beau travail à faire, tu le fais. Donc je le fais, je débarque à la gym et je fais une blague à une des filles qui va au championnat, enfin non c'est pas une blague mais je le comptais vraiment le faire, qui va au championnat de France. Je dis prépare-toi parce que ça je les garde au championnat de France. Et là je vois son visage qui se décompose, elle me dit mais t'es pas au courant, t'es pas convié en fait. Je dis comment ça je suis pas convié, je suis ton entraîneur, c'est le rêve de tout le monde, comment ça je suis pas convié. Et de là je me dis bah, vas-y en fait c'est bon, j'ai donné. La finalité c'est d'être au championnat de France avec tes athlètes, de partager ce moment, de tu planifies ta saison sur ça, enfin tout est fait pour que vas-y on finisse qualifié au championnat de France. Donc j'apprends au final que non, je ne serai pas convié à ces championnats de France. Ça me met quand même une belle claque et là je me dis ok bah vas-y pensons à soi et dirigeons-nous vers le yoga qui me semblait être beaucoup plus dans l'écoute de soi. Et c'est ouais. Quelque chose qu'au final j'ai réalisé aussi ne pas avoir beaucoup fait à travers la gym. Et quand t'es enseignant aussi, tu peux te perdre dans l'enseignement, tu peux complètement t'oublier. Et donc j'arrive dans ce milieu quand même avec plein d'optimisme, plein de beauté en me disant ouais, ça va être namasté, ça va être très cool, les gens vont être très ouverts, ça va être génial, on va vraiment avoir une belle communauté, un beau truc. Je me dis ouais, bah en fait c'est pas si namasté que ça ce milieu là tu vois. Ok, ah ouais. Donc maintenant c'est pas si namasté, bah écoute on va faire avec. Et puis voilà. Et puis je fais des enseignements, des cours de yoga qui sont d'une simplicité, enfin on va remettre, que je trouve moi simples de par ma pratique, mon background et tout, mais qui en fait sont très précises. Au début, j'étais dans la folie, dans l'ego. Vas-y, on va faire ta des trucs de ouf, tu sais quoi. En plus, je suis prof de gym, on va mettre les équis à tous les coups. Vas-y, let's go, et puis, plus le temps passe. Enfin, non, déjà, il y a eu un truc très drôle, tu vois, où je fais un cours, il n'y a pas beaucoup d'élèves, et il y a deux copines qui sont là. Et sa copine, je lui dis, t'inquiète, moi, je te monte à l'équipe, t'inquiète, j'ai fait de la gym, t'inquiète pas, je t'envoie à l'équipe, ça va être ouf et tout, tu vas voir, ça va être génial. Donc, c'est la technique où tu demandes aux gens de poser leurs pieds sur ton épaule, et en fait, les mains sont au sol, et puis tu marches, et donc, obligatoirement, bah, ça monte à l'équipe. Et la meuf panique, ce qui est, je pense, un petit peu normal. Et moi, je dis, tranquille, vas-y, bouge pas les mains, on y va. Et là, sa copine me met un coup de pression de ouf. Mais tu vois pas qu'elle va pas bien et tout. Et donc là, déjà, prise de conscience de, ok, vas-y, Ross, sors de ton ego. En fait, là, t'étais complètement dans de l'ego, dans tous tes enseignements. Et puis, je commence à réaliser aussi que les gens n'ont pas forcément une connaissance de leur corps si poussé. Les schémas corporels, pas forcément si bien établis. Et j'en arrive, du coup, à simplifier mes cours. Mais genre, vraiment, ça doit faire un an, pratiquement, que je fais le même cours. Presque à chaque fois, tu vois. Peut-être qu'il y a deux, trois petites modifications, mais on en revient à cette base. Voilà, on veut une base solide pour derrière pouvoir avancer. Et malgré le fait des conseils que je peux donner, des trucs, je vois toujours des trucs où les gens ils sont dans l'ego. Je propose de mettre des blocs, prenez vos blocs. Les gens ils veulent pas de blocs, ils veulent pas d'aide. Je leur dis tout le temps, vous savez, il y a rien de plus noble que demander de l'aide. Mais les gens ils veulent pas de blocs. Ils en veulent pas parce qu'ils veulent pas d'aide, parce qu'ils sont dans leur ego. Et parce que sur Instagram, ils voient que, vas-y, il faut avoir la jambe tendue, tirer, machin. Mais pareil, tu sais pas que ce garçon-là, cette fille-là, c'est peut-être un ancien mec du cirque. C'est peut-être un contentionniste, c'est peut-être aussi une ancienne GRS. Donc, c'est des gens qui ont cette habilité-là parce qu'ils sont tués pour ça. Donc, déjà, ce rapport, à un moment, je me dis, ok, en fait, c'est pas si, voilà, namasté que ça. Le yoga, c'est vraiment beau, hein, c'est bien, j'adore ça. Mais c'est fait à l'excès, ça te bousille, tu te tumes et tout, les hanches, les genoux, les épaules, les poignets, tout, parce que ce qu'on veut, c'est une perfection, entre guillemets, d'alignement qui est difficilement atteignable. Et du coup, bah, en fait, il faut encore une fois revenir, vas-y, laisse ton ego loin, ta pratique, moi, je te souhaite qu'elle dure toute ta vie, que tu prennes ton temps, que tu construises pas à pas, petit à petit. Mais encore une fois, non, je veux tout de suite. Et puis sur Instagram, maintenant, ils ont tous la main au sol. Pourquoi moi, je mettrais pas la main au sol? Mets-la au sol, mais dans 6 mois, 1 an, tu la mettras plus jamais au sol, en fait, parce que tu auras tellement niqué ta hanche que, vas-y, tu ne pourras plus faire
exactement certaines exactement
donc ça. Et après, même après, dans les je vais peut-être me faire des ennemis, mais c'est pas grave, dans le milieu après parisien, il y a aucune solidarité. Comment on s'est rencontrés, toi et moi? Je t'ai vu sur Facebook, je t'envoie un message en mode waouh, j'adore ton délire, man, viens, on se connecte. Et ben, on s'est connecté, j'en ai envoyé plein, des messages comme ça. Je passe mes, plus maintenant, mais j'ai passé mes journées à envoyer des messages. J'ai la chance, comme tu sais, d'avoir un studio où je peux accueillir des gens, où je peux partager. Des messages, j'en ai envoyé plein, des venez, on partage, venez, on se connecte, venez, on échange, venez, on apprend les uns des autres, venez, on fait des cours ensemble. Bah, aujourd'hui, en te comptant toi, ça fait 2 ans que j'ai à peu près entrepris ça. Je dois avoir des irréductibles, on doit être 5, tu vois. J'ai pu avoir des contacts avec 5 personnes, alors que vraiment, à un moment, j'ai vu du turnover dans le studio, mais à foison, tu vois. Et tu sais pas pourquoi au final les gens venaient. Pourquoi? Pour savoir ce qui se passe, pour gratter des infos, pour prendre, pour dire, ouais, bah, j'y étais, faire sa petite story. Ouais, moi aussi, j'étais là, tu vois. Et c'est un peu, voilà, il y a un ego surdimensionné, il y a peu d'aide, il y a peu de partage de savoir. Mais au final, je retrouve un petit peu le délire de la gym, mais qui doit se retrouver au final partout dans la société, tu vois.
Exact.
Le concept, je pensais vraiment débarquer dans un milieu qui allait être communautaire, tu vois, communautaire, comme le sport qu'on a pu faire, qu'on allait s'élever les uns les autres, qu'on allait s'aider, qu'on allait pouvoir partager des bons moments, des trucs. J'en partage avec certaines personnes et heureusement, tu vois, mais je souhaiterais tellement en partager avec plus, mais ça semble difficile, compliqué pour je sais
et
pas.
Écoute,
pour,
ouais, moi, je suis tellement d'accord avec toi. Et pourtant, il y a des exemples de pratiques qui ont réussi à fédérer les gens, tu vois, à les rassembler autour de communautés. Et là, moi, je prends l'exemple que d'habitude, je prends, on va dire, un peu de manière négative dans certaines mises en application. Mais c'est le CrossFit. Le CrossFit, ils ont une communauté, mon pote.
On parlait hier avec un pote.
Ah ouais? Mais gros, ouais, tu dis le mot crossfit, tu veux tailler le crossfit devant un crossfitter, mais gros, s'il n'y a pas un autre crossfitter dans le restaurant qui va se lever, qui va venir, mais c'est, ils sont comme ça, les mecs, tu vois. Ouais, et ça, c'est beau. C'est, et après, c'est vrai que, par exemple, dans les arts martiaux, il y a ça aussi, tu vois. Ah, tu fais du MMA, je fais du... La mec, t'es comme ça, tu vois. Et dans le yoga, alors là, je vais faire peut-être la diff, parce que comme moi, tu sais, bah, je vis quasiment tout le temps en Asie, tu vois. Là, c'est le paradis du yoga. Ici, moi, j'ai tous les yogis, les hippies, les wouwou, les mecs qui s'habillent en blanc toute l'année, machin, les tantras, les kundalini, les yin yoga, et tous, ils sont là. Et même ici, c'est pollué d'Instagrammeurs, de ça, de « non, moi, je fais ça pour ça ». Un espace, pourquoi tu partages pas ton espace? Pourquoi t'aides pas lui? Pourquoi tu fais? Et ça, alors que dans les salles de MMA, mec, dans les salles de MMA, ou enfin, c'est pas un exemple parce que c'est partout pareil. Il y a des bons exemples et des mauvais exemples. Là, nous, la vision qu'on donne, c'est pas une vision généraliste du yoga. Moi, il y a plein d'endroits ici où les cours de yoga, c'est trop familial, c'est super bien, c'est magnifique. Non, ouais, mais c'est vrai que de la vision que
négatif.
Voilà, mais c'est vrai que moi, si je devais faire, par exemple, une critique de l'industrie du yoga. C'est justement l'industrie, c'est le marketing, c'est toute cette partie. Tu vas voir un mec dans les montagnes en Inde, il va te dire, mais non, c'est pas du tout ça le yoga, tu vois. Et lui, il en a fait 80 années, tu vois. Mais par contre, nous, ce qu'on en retire, tu vois, en Europe, en Occident et à Paris, par exemple, mais c'est une version totalement diluée de ce que ça peut être comme la vraie praxis, de la même manière que peut l'être la gymnastique. Là, aujourd'hui, Instagram, c'est blindé d'équilibre. C'est blindé de gens qui font des handstands. Moi, j'ai eu plein de gens dans mes stages, dans mes trucs, qui me disaient comment j'apprends un handstand là, vite, tu vois, tout de suite. Je croyais que le mouvement, c'était faire des handstands. Je dis, mec, non. C'est un exemple de ce que tu peux atteindre, mais c'est pas ce qu'il faut atteindre, tu vois. Et pour le faire, les années qu'il y a derrière aussi, tu les vois pas dans l'image. L'image, tu vois la fin. Mais par exemple, même les gens, tu vois, moi, j'ai plein de gens qui sont fans, tu vois, d'une des communautés de laquelle je viens, qui est la communauté, la movement culture, tu vois, Dido Portal. Et j'ai plein de gens qui me découvrent parce que ils savent que moi, j'ai été élève de ça et qui me disent, ouais, j'ai vu une vidéo de Dido Portal, je veux être comme ça. Vas-y, je m'entraîne avec toi. Non, mais attends. Ce mec-là, il a 20 ans de capoeira, il arrive dans la quarantaine, le mec, il a fait des équilibres, il en a fait, mais genre pendant des années, 10 ans, il a fait de l'haltérophilie, de la gymnastique, de la danse. Et toi, tu vois un équilibre à une main et transformation en lézard et tout, tu dis que tu vas faire ça directement. C'est pas possible. Et même, moi, j'ai des gars qui me disent, ouais, c'est bon, j'ai l'équilibre. Alors, évidemment, moi, je ferme les yeux sur l'équilibre banane, il n'y a pas l'ouverture d'épaule, il y a tout qui va pas, tu vois, le pelvis, machin. Tu dis, ok, vas-y, je te le donne, je t'accorde l'équilibre. Vas-y, tu as l'équilibre. Et il me dit, comment je passe de ça à l'équilibre à une main, tu vois. Je dis, écoute-moi bien. Même dans le cirque, quand t'as l'équilibre du cirque, qui est l'équilibre propre, tu as de la gymnastique, tu passes de deux mains à une main, ça te prend encore 3-4 ans, mec. Et le gars, il me dit, mais non, c'est pas possible. Il dit, bah oui. Mais oui, c'est comme ça que ça marche. Tu crois que tu vas aller, tu crois que t'as mis 3 mois pour faire une handstand banane qui va se casser la figure et tu veux l'équilibre à une main 6 mois plus tard. C'est pas possible.
C'est pas possible.
Ils ont déjà mis 10 ans à avoir l'équilibre à deux mains et tu crois qu'ils vont mettre 1 an à avoir le, et une main? Ben non.
Et en plus, après, on parle pas de, voilà, comme t'as dit, comment t'es souple des épaules, t'es raide des épaules, tu sais mobiliser ton bassin, tu sais pas le mobiliser, tes hanches, tes bras, tes trucs, tes machins.
Il y a tellement.
T'as pas des hyperextensions, machin. Moi, je voulais absolument mon équin un bras. Et je me suis fait à l'idée qu'en fait, non, je peux pas, j'ai des hyperextensions du coude.
Ouais.
Ça me tue. Et pourtant, j'étais là, non, vas-y, c'est pas grave, c'est quoi, c'est sûr, c'est faisable, c'est sûr, c'est faisable, c'est sûr, c'est faisable. Bah là, je me fais doucement à l'idée que non, non, c'est pas faisable. Ou alors, oui, c'est faisable, mais ça veut dire que là, je vais avoir 32 ans, bah, 42, sûrement, je tends plus le bras.
Ouais.
Donc, non, j'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie, et je m'en fous. Et pourquoi je veux mon équin bras? Parce que Instagram est pollué d'équin bras.
Voilà.
Tu vois, je me retrouve au final victime comme les élèves que j'ai qui veulent leur équin. Parce qu'ils en voient plein sur Insta, bah voilà, moi j'ai eu la même démarche, j'ai mis tellement d'équipes à un bras que je dis, attends, je veux poster ma vidéo d'équipe à un bras. Et au final, tu sais même pas si tu le veux véritablement,
ouais.
Ou si tu peux en fait, parce que c'est devenu tellement une sorte d'effet de mode que t'en vois partout.
Ouais.
Et puis, tu vois, on perd un peu cette notion aussi de la réalité. Et après, je me suis dit, non, mais en fait, je peux pas prospérer, t'as des hyper extensions, il y a des mouvements en gym que je pouvais pas faire. Bah, je vois pas pourquoi je pourrais faire un équin à bras alors que non, structurellement, c'est pas possible, je peux pas, tu connais mon coup, tu vois.
Ouais, bah ouais. Ouais, ou alors, tu sais, tu fais vraiment une vraie épopée pendant 5 ans de renforcer les tendons autour et de fixer. Oui, mais pas en pas en se basant sur tes expériences passées, tu vois. Et moi, je me rends compte de plus en plus de ça, pareil, avec mon corps, les blessures que j'ai eues. Il y a des choses, en fait, bah ouais, comme tu dis, structurellement, je pourrais, si je les avais, elles seraient déjà très difficiles à maintenir et le risque, il est trop grand, tu vois. Il y a des trucs, moi, que je peux pas faire à cause de mes blessures aux genoux, etc., tu vois. Il y a des, tu vois, genre, rien que, par exemple, tenir une position de tailleur, tu vois. Mais mec, au bout de 5 minutes, j'ai toute la partie en dessous de mes genoux, elle est figée, quoi. Je peux plus les bouger parce que c'est ma blessure de quand j'étais petit qui revient quand le nerf sur l'extérieur, il est pressé, tu vois. J'ai que des trucs comme ça. Il y a plein de trucs comme ça, tu sais, où ton corps, il dit, bah oui, en fait, vu les pratiques que t'as faites par le passé, les blessures, déjà, sois heureux, tu t'en es remis. Sois heureux, maintenant, tu peux courir, tu peux marcher. Il y avait une époque où c'était pas le cas, tu vois. Enfin, marcher, si, mais je veux dire, je pouvais plus courir, etc. Et donc, il y a des trucs comme ça où tu dis, hey, mec, vivons avec ce qu'on a. Soyons dans la gratitude de ce qu'on a et essayons de jouer autour de ça et d'être à ce point neutre, tu vois, où tu veux tenter des choses, tu joues, mais dès que tu vois, il y a un petit hop, tu reviens derrière et t'avances, tu recules et tu joues autour de ça, continuellement dans cette idée de progresser, de s'améliorer, de toujours avoir des ambitions, même physiques, hein, c'est très sain, mais avec... pas avec ce qu'on a, tout ce qu'on a fait par le passé, tu vois. Pas avec ces attitudes qu'on a.
Avec la réalité que tu as actuellement, en fait.
Exact.
Avec le corps que tu as, le background que tu as, et puis voilà. Après, je me suis dit, bon, bah, il y a pas, et qui en aura, mais c'est pas grave, il y a plein d'autres trucs, en fait. Tu peux apprendre tellement d'autres choses, tu vois. Il y a, c'est ça, en plus, ce qui est fou, c'est que le mouvement est infini. Le mouvement t'offre des possibilités incroyables.
C'est clair.
Tu peux très bien aller t'ouvrir vers autre chose et ça sera tout aussi gratifiant. Et à un moment, je pense que c'est... Bon, souvent Instagram revient parce que c'est devenu tellement là, mais en vrai, c'est... Voilà, entraînons-nous pour nous, en fait, tu vois. Ne nous entraînons plus pour mettre que bah, je m'entraîne sur Insta. Regardez, en fait, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu vois. Même si c'est cool, mais le fond... Enfin, pose... Moi, je me pose la question, on va arrêter de dire nous tout le temps. Moi, je me pose la question de est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est vraiment sain? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Ou est-ce que c'est mon ego qui me dit, vas-y, il faut montrer ça sur Instagram parce que les mecs que je suis et que pareil, au final, je connais même pas forcément leur background, mais ça se trouve, voilà, le mec, il peut parce que il vient de là. Et donc, je me pose souvent la question de, voilà, est-ce que c'est mon ego ou est-ce que c'est déjà une réelle envie, en fait, que j'ai, ou est-ce que je le fais parce que j'ai envie de pouvoir le partager et dire aux gens, attends, moi aussi j'ai ça, moi aussi je fais ci.
Et ça, c'est une vraie problématique qui revient pas que sur le sujet de la performance athlétique, du mouvement, ça revient aussi sur la nutrition, tu vois. T'es tellement bombardé de cubes que tu sais pas si t'as vraiment faim ou pas, que tu sais pas si tu veux vraiment cet aliment ou pas, que tu sais pas si t'es... Tu vois, là, moi, je suis dans un endroit où, genre, tu sais, tous les restos sont vegan. Donc, t'as plein de gens qui viennent ici, bah, ils sont en mode, bah, ok, je vais tourner vegan. Ouais, mais est-ce que tu le veux ou c'est parce qu'il y a plein de restos là? Ou est-ce que c'est par facilité? Ou est-ce que c'est la pression de ton copain, ta copine, ton... Mais, en fait, on sait, comme tu disais au tout début, le retour à soi et à essayer de se connaître, je pense que c'est ça qui est très, très important. Et que ça soit la nutrition, le mouvement, la spiritualité, peu importe, toutes les dimensions de notre être. En fait, ouais, essaye de t'écouter toi, mais fondamentalement, essaye de retrouver cette voix-là, tu vois. C'est quoi ta vraie voix? Le vrai son de ta voix, tu vois. Et ça, c'est très difficile. Et c'est vrai que c'est tellement facile de se perdre et de l'oublier. Et même moi, tu vois, qui ai quitté Instagram et tout, tu peux le perdre en 5 minutes, quoi. Tu sais, ça, t'as des petits éclats comme ça, des moments où t'arrives, tu vois un gars, tu fais, putain, mais ouais, mais en fait, moi aussi, j'ai bien envie de ça. Et après, tu fais, mais en fait, j'ai pas envie, c'est parce que là, il me l'a montré. Mais j'ai jamais eu envie de ça, je m'en fous de ce truc-là. Fondamentalement, je m'en fous, tu vois. Mais il y a des fois, tu sais, tu vois un gars, tu dis, putain, mais j'aimerais bien, ouais, moi aussi, faire, je sais pas, moi, un pont arrière comme cette meuf et tout. Ouais, mais non, en fait, Slim, parce que les muscles de ton dos, ils vont pas te permettre de faire ça. Elle fait genre 45 kilos, tu sais, t'en fais genre presque 80. C'est pas possible. Arrête, quoi. Et au final, ouais, ça te, il y a des choses comme ça où le travail n'arrête jamais et on est toujours là à essayer de retrouver ce son-là de qu'est-ce que Prosper il veut, qu'est-ce que Slim il veut, en fait. Qu'est-ce qu'on, qui on est réellement, tu vois? Qu'est-ce qu'on est en train de se dire à l'intérieur? Est-ce que c'est nous qui parlons ou c'est quelqu'un qui parle à travers nous? Et ça, c'est, nous, ça, c'est le...
Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Et tu vois, pour, pareil, pour en revenir au yoga, tu vois, je pense qu'aussi, ce que les gens savent pas forcément, c'est qu'on a 8 piliers dans le yoga, quand même, tu vois, au-delà des pratiques physiques, t'as quand même des philosophies de vie. Ouais. T'as des façons de te comporter avec toi, t'as des façons de te comporter avec les gens, tout ça, je sais même pas si au final on est au courant, tu vois. Est-ce que les gens savent vraiment que t'as des piliers dans ces piliers, t'as des sous-piliers? En fait, c'est vraiment le yoga, c'est pas le mat, en fait. C'est pas tu déroules ton matelas, tu fais ce qu'on appelle du coup les asanas, les pratiques physiques. c'est pas du tout ça le yoga en fait, c'est ce qui se passe hors du matelas justement, c'est ouais. ça qui est intéressant. Et c'est un truc qu'on oublie souvent, tu vois, on est là, on balance son matelas, on fait un cours de yoga 2-3 fois par semaine et ouais bah ouais, je suis yogi.
Et moi, en même temps, de l'autre côté, tu fais n'importe quoi.
Comme un yogi, tu vois, pas ouais. du tout. J'ai même du mal à me considérer prof de yoga. J'ai fait un 200 heures, c'est rien, tu vois, c'est rien. C'est une goutte d'eau dans un océan. Tu peux pas tout savoir et puis ne rester sur ses acquis. Enfin, c'est dangereux, tu vois, de rester sur ses acquis, de penser à un moment qu'on sait tout et qu'en fait, Instagram, on va arrêter de parler d'Instagram parce que même dans la vie, c'est tout le temps comme ça. C'est bien plus large que ce qu'on imagine en fait. C'est bien plus large que ce qu'on imagine et on en revient encore une fois à ce travail voilà spirituel de savoir au final ce que tu veux, qui tu es et cette dimension même si elle est en train d'être de plus en plus présente, les gens en prennent de plus en plus conscience.
Ouais.
Elle est quand même assez ou du moins nous on est entouré de gens qui sont dans cette recherche là.
C'est ça aussi.
Mais je pense que voilà, il faut un moment se connaître quoi. Si tu te connais pas toi-même, c'est super compliqué, tu vois. Et ouais. C'est comme ce côté de on ne sait pas rien faire. Les gens, moi compris, on a du mal à rien faire, tu vois. On va dire ok, assieds-toi là et vas-y, tu bouges pas pendant 40 minutes. Bah, qu'est-ce que je vais faire en fait? Qu'est-ce que je fais? Mmh. Ben, rien, c'est pas grave en fait. C'est pose-toi, prends du temps. On disait qu'on sortait pas beaucoup, tu vois, de par notre pratique sportive, etc. Moi, j'ai des gens qui me disaient, mais t'es déprimé, pourquoi t'es chez toi? Bah non, parce que j'ai envie d'être chez moi, j'ai envie d'être avec moi, parce que je suis bien chez moi, parce que je suis bien seul, parce que j'ai pas forcément besoin de... Voilà, de temps en temps, j'aime bien vous me couper, rester tranquille dans ma chambre, lire mes petits bouquins, prendre mon temps, faire des trucs pour toi, même si t'es dans une activité... Mais au moins, t'es avec toi. Ouais. Et moi, je pense que c'est super important. Et je me connais pas encore, hein. Et je pense que j'ai le temps de me connaître. Mais ça reste, je pense, une démarche très importante et super, super importante pour savoir ce que tu veux, en fait. Si tu sais pas ce que tu veux, c'est compliqué. Plus tu demandes de conseils aux gens, plus ta vision est perturbée. Et moi, en fait, tu sais ce que tu veux.
C'est clair, c'est clair.
En vrai, je pense qu'on sait tous ce qu'on veut, mais qu'on a du mal. On en revient aussi à ce problème de confiance en soi. Je pense qu'on a tous des gros déficits un petit peu de confiance en soi. Parce qu'en plus, on nous apprend, ouais, ne sois pas hautain, tu vois, non, sois là, non, montre pas trop tes forces, non, attends, parle pas
trop. Ah ouais, il y a trop de...
Ne dis pas que tu sais, machin, nanana, sinon tu vas être arrogant, sinon ci, sinon ça. Alors que non, c'est au final, je sais ce que j'ai, je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je connais mes valeurs, je connais mes faiblesses. Et une fois que je pense que tu connais tout ça, mais ta vie, vas-y, ça, c'est bon. Hein.
Soit, c'est clair. Soit. Et là, c'est un truc super, super cool là, dont tu parles. Et c'est vrai que, encore une fois, la pratique physique, la compétition, pas la pratique physique, mais la compétition. Ça te donne la parfaite scène pour te permettre de faire ça, tu vois. Que ça soit la danse, les arts martiaux, la gymnastique, le crossfit, motocross, peu importe. Le jour de la compète, c'est lâcher les fauves, quoi. T'as le droit à tout. Et ça, c'est ce que j'essaye de partager, tu sais, avec des amis qui s'entraînent, mais toute leur vie en fait, ils sont entraînés, mais ils ont pas quitté les bancs de l'école. Ils sont jamais sortis de la salle ou de la pratique encadrée. Où ils n'ont pas vécu ce moment de hey, « Eh, là, c'est toi seul qui dois t'exprimer.
C'est
ton moment. » Et là, comme tu disais, il y a tellement de règles de « Ah, mais regarde, si tu dis ça, t'es hautain. Si ça, c'est arrogant et tout. » Alors que le jour de la compète, t'as le droit. Et je pense que c'est ça qui est bien. Et pour ça, moi, j'essaye, quand j'en parle, il y a des parents qui me demandent pour leurs enfants ou des trucs comme ça. Moi, je suis le premier à promouvoir la compète. Il faut faire de la compète. Parce qu'en fait, t'auras quasiment jamais… l'occasion pour la plupart des gens dans la plupart des vies, personne n'aura l'occasion de, tu sais, d'être sur une scène, tout le monde te regarde et tu peux faire quoi, tu peux être, tu vois. Alors ouais, si t'as envie de montrer de l'arrogance, du showmanship, tu vois, t'as envie d'être là le mec qui bouge, qui rigole, mais sois quoi, personne va te le reprocher, t'es sur scène, tu vois, t'es sur une plateforme pour ça, tu es là pour que tu communiques des émotions, tu montres ton expression à travers cet art là Et ça, moi, je sais que j'ai le cœur en gratitude d'avoir eu très tôt dans ma vie de la compète, parce qu'en fait, dans tout ce que je disais pas à la maison ou que je voulais pas, quand, tu vois, le jour de la compète sur le terrain, tu fais ce que tu veux. Dans le ring, tu fais ce que tu veux. La perf, tu fais ce que tu veux, mec. Et ça, c'est jouissif. Personne te juge. Personne te dit ah non, dis pas ça, t'es arrogant. Non, là, c'est moi là, tu vois. C'est le moment de lâcher le truc, tu vois, de briller. Et ça, c'est vrai que ça aide énormément pour revenir au sujet de la confiance en soi. La compète, ouais. Ça aide. Que tu gagnes, que tu perdes, le fait de le faire, c'est...
Cette démarche-là, déjà.
La démarche t'aide, exactement.
La démarche d'aller en compète, tu vois. Ouais. Moi, quand je fais les compètes avec les... Surtout les petites, parce qu'après, les grandes, elles ont leur expérience, elles savent, mais leurs petites, c'est ce que je disais. Je dis, mais là, c'est ton film, là.
Non, c'est exactement ça. C'est ton film.
C'est ton film. Là, c'est ton moment. Tu fais ce que tu veux. C'est toi et toi. T'as envie de briller, tu brilles. T'as envie de faire des choses que tu n'oserais peut-être pas faire. Mais hey, c'est le moment. C'est ton film. On ne filme que toi. Et puis, bon, ça donne une pression aussi, tu vois, parce que ça, tout le monde va te regarder. Tu vois, nous, dans la gym, c'est vraiment le sol. C'est ce grand carré. Tu rentres dans une salle, tu ne vois que ça. Tu
vois. Des barres énormes.
On est à la compète au sol. C'est ce que je dis. J'ai là. Tout le monde va te regarder. Mais que ça soit tes parents, c'est sûr, ils vont te regarder. Mais même les parents des autres vont te regarder. Parce qu'au final, t'es sur le sol. Il y a de la musique, il y a un rapport choré, musique, machin. Donc là, c'est le moment, vas-y, tac, t'es une star, brille, tac, vas-y, c'est le moment. Tes épaules, lève le menton, souris, exagère tes gestes, vas-y, va au bout des choses. C'est ton moment. On est en train de filmer, là. Vas-y, let's go, tu vois.
Quoi.
Et c'est sûr, t'as une pression, mais qui est positive. T'es positif et que cette pression, de toute façon, on peut pas l'enlever. Elle est présente même après dans la vie de tous les jours.
C'est
et elle est importante. Et c'est pour ça qu'effectivement, la compète, c'est super formateur.
C'est clairement le truc pour faire le parallèle avec l'école. C'est typiquement ce qu'il n'y a pas à l'école. Personne à l'école te dit, bah, vas-y, sois-toi, exagère tes gestes, montre-toi encore plus, lève le menton. Non, non, c'est l'inverse. C'est sois silencieux, discret, lève la main et je t'autorise à prendre la parole. Mais mec.
J'avais oublié cette phase.
Mais oui, t'as oublié cette phase de tu lèves la main pour qu'on te donne la parole. Mais là, moi, aujourd'hui, alors que là, tu demandes n'importe quel adulte, un adulte qui te dit lève la main, prends la parole, tu lui dis, mais attends, mais vous êtes qui pour me parler comme ça? C'est ce qu'on dit aux enfants. Vas-y, lève la main, je te donne la parole.
Mais tu parles trop vite, ils t'autorisent pas à répondre.
Ouais.
Non, prochaine fois, tu lèveras la main, vas-y, va avec
nous. C'est un truc de fou.
Je me raconte. j'avais
oublié ces phases. Bah oui, les phases, mec. Là, ça m'est revenu de lever la main, de ça. Et c'est même pas parce que tu veux être. Je comprends bien qu'il y a une organisation, il y a 35 élèves. T'as envie que ça soit pas la cacophonie. Je comprends bien. Mais il y a aussi un moyen d'asseoir tout le monde autour d'une table et que chacun apprenne à se laisser, à s'écouter. Il y a aussi ce côté-là. Si t'apprends aux gens à écouter, naturellement, ils vont.
Ouais. Voilà. Si on t'éduque à écouter les gens et à prendre ce temps, bah non. Oui, au début, ça va être chaotique. Parce que,
comme dans ta famille. C'est clair, comme dans ta famille, dans les relations que t'as, t'apprends à écouter tes amis quand ils parlent, t'apprends à écouter tes parents quand ils te parlent. Ça, tu le fais un peu naturellement, organiquement. Même si au début, c'est la cacophonie, dans les moments de calme, bah, t'y reviens, tu dis, ouais, excuse-moi, quand j'étais énervé, j'ai dit ça, je vais essayer de moins t'interrompre. Et après, ça s'arrange, tu vois. Mais non, pas à l'école. À l'école, c'est non, tu vois. Et la compète, c'est parfait pour ça, quoi. Là, il y a personne qui va te dire, lève la main avant de faire ta pirouette. Non, tu fais ce que tu veux.
Vas-y, balance ce que tu peux balancer. C'est vrai que ça, j'y avais pas trop pensé, mais c'est clair.
C'est un bon truc,
quoi. C'est super important. Et on en revient à cette confiance qui est aussi, je pense, le problème de beaucoup de choses, quoi. Et on nous inculque pas la confiance en soi. Tu vois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas. Il y a même ce dicton qui est français. Je suis sûr qu'il existe qu'en France. Trop bon, trop con. Qu'est-ce que c'est? Je pense que dans d'autres pays il existe, tu vois. Ça veut dire quoi, trop bon, trop con. Donc en plus c'est soit et ne sois pas trop gentil, tu vois. En plus attention, reste dans tes cases, ne sois pas trop gentil non plus. Mais si, sois gentil et t'inquiète pas si l'autre il profite de toi, y a le karma qui existe. Et à un moment ce mec-là, t'inquiète pas ou cette
c'est clair.
Elle aura un retour du bâton. Et du coup je pense qu'en plus ça doit, tu sais, ça crée des voilà, tu le fais une fois, tu le fais deux fois, tu le fais trois fois. Si t'as pas cette mentalité de te dire, c'est le problème des gens, c'est pas mon problème. Que cette personne pense que je suis trop bon, trop con, c'est pas moi. Il est pas en train de me définir, il est en train de, c'est son problème. Ouais. Mais si tu commences à croire qu'effectivement, après, t'imagines, tu coupes à ses connexions. Tu te coupes, en fait.
T'arrêtes d'être généreux, t'arrêtes d'être gentil, tu dis, oh non, tout le monde va abuser de moi et tout.
Ouais.
Et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on a. Moi, je me rappelle, la vie, en fait, dans les grandes villes. Moi, tu vois, je suis de Paris. Et à Paris, mec, c'est ça. En fait, il y a de la méfiance en permanence, tu vois. Et même si les gens, ils se disent, ouais, mais c'est pas grave, c'est normal, c'est une ville, il y a une densité de population importante et tout. Ouais, mais en vrai, ça devrait pas être normal. Moi, j'ai pas envie de me méfier des gens, tu vois. Et quand tu sors de la France et que tu vas dans d'autres pays, par exemple, là, en Asie, il y a vraiment pas ça. pour les gens qui ne sont jamais venus en Asie, c'est difficile de comprendre, mais là, dans la plupart des pays d'Asie, en tout cas Asie du Sud-Est, même Japon, etc., mec, il n'y a pas ça. Il n'y a pas la méfiance. C'est-à-dire que tu veux garder un. Tu donnes ton portefeuille à quelqu'un, il sera là, il va t'attendre, il va te le rendre, tu vois. Le passeport, tu le laisses sur la table, bah, tu sors, tu reviens 3 heures après, il est là, quoi. Enfin, ils n'ont pas ce rapport au. On va essayer de te faire du mal, ou on va essayer de profiter et tout, tu vois. Alors que tu vois, par exemple, ici ou dans des pays d'Asie du Sud-Est, on a un pouvoir d'achat plus important. Ils savent que techniquement, si on vient d'Europe, on devrait avoir plus d'argent, en tout cas plus de pouvoir d'achat qu'eux. Ils abusent pas, quoi. Les prix, c'est les prix. Alors évidemment, quand tu vas dans les marchés et ça essaye de carottes et tout, mais au final, c'est pour quelques euros, c'est pas grave. Mais là, dans un resto, il y a les prix, tu dis, bah ouais, si je mange un repas et ça vaut 1,50€, bah le gars, il va pas voir ta tête de blanc et il va dire, c'est pour toi, c'est 5€. Non, bah c'est 1,50€ et puis c'est tout, quoi. Enfin, tu sais, tant pis, quoi. Et ça, c'est un truc. Au final, tu dis, ouais, peut-être cette manière de voir le monde et la vie en communauté, elle est un peu plus saine, en fait. J'ai pas envie de me méfier de mon frère en humanité, quoi. J'ai pas envie de me méfier de lui.
Non, tu vois. Moi, j'aime bien dire, moi, j'ouvre mon cœur très vite, mais c'est trahis-moi très vite. Comme ça, je suis très vite au courant, en fait.
Ouais.
Et aussi, je trouve, enfin, c'est un mindset après avoir, tu vois, mais moi, j'ouvre, vas-y, sans souci, on se rencontre, on connecte, on fait des trucs, mais je t'observe, t'inquiète pas, si je sens qu'il y a trahison, bah voilà, je te laisserai partir, mais au moins j'ai pris le risque, oser, il faut oser, tu vois, on en revient,
ouais.
Il faut oser, il faut se connecter, et bien sûr que nous, on n'est pas dans le même mindset que toi, tout.
C'est certain.
Tu peux pas plaire à tout le monde, tout le monde ne peut pas te plaire. Mais c'est comme ça, et c'est pas pour autant qu'il faut se fermer à ça, tu vois. C'est continue d'être la personne que tu es, à créer des connexions si c'est ce que tu aimes. Et bien sûr, tu vas avoir des déceptions, mais c'est pas grave, parce qu'à un moment, tu auras des belles connexions, parce qu'on attire ce qu'on veut et on cherche ce qu'on veut.
Ah, c'est
et notre
clair.
Connexion, tu vois, c'est totalement ça. Notre connexion, elle est sur les réseaux sociaux à la base, et après, on est découlé. Un vrai concept où, malgré ton nomade lifestyle, on s'appelle, on s'envoie des messages, on se tient au courant, on fait des petits vocaux, comment tu vas, ouais, ça va, ok, vas-y, bah, feu, cool, sommet, tu reviens quand, je reviens là, on se voit pas, bah, c'est pas grave, tu vois, on est toujours là pour se connecter et ça bougera pas parce que du coup, on était dans ces recherches de connexion et du coup, bah voilà, on s'est connecté. Donc, les gens qui pensent que c'est difficile de se connecter ou qui ont que des échecs pour le moment, faut pas abandonner parce qu'à un moment, tout s'aligne. À un moment, tout s'aligne. Et tout finit par s'aligner. Et quand tout s'aligne, bah, ça devient super cool.
Ah non, mais c'est clair, mais je suis trop d'accord avec toi et ça me fait penser à cette idée de, même, tu sais, pour les, bah, que ce soit des connexions, des relations amoureuses ou d'amitié, etc. En fait, c'est le but. Le but, c'est d'envoyer des perches, quoi, tu vois, en permanence, et qu'au bout d'un moment, c'est comme ça que tu vas avoir une autre personne qui va répondre à cette perche-là. Mais s'empêcher d'envoyer la perche, c'est là où t'arrêtes de vivre, en fait, tu vois.
Ouais,
c'est comme la pêche, quoi. C'est vraiment, faut y aller, il faut pratiquer, et t'es pas sûr d'avoir une prise tout le temps. Mais en fait, sans le faire, t'auras jamais de prise. Ça, c'est certain. Et c'est ça qui est difficile des fois. Et on a tous tendance, tu sais, moi le premier, tu vois, j'avais beaucoup tendance juste à fermer, à dire vas-y, fuck le monde, tu vois, et je ferai tout seul. Et au final, bah maintenant, je me dis voilà, ça vaut la peine, même quand c'est, comme tu disais, quand c'est des expériences qui sont un peu dures. Déjà, elles t'apprennent des choses. Et puis même dans le cas où c'est dur et c'est difficile, c'est la life, mais c'est comme ça. Non, on va pas à l'entraînement en se disant aujourd'hui j'aurai la meilleure séance de ma vie. 99% de mes séances, elles puent, tu vois, elles sont dures, elles sont chiantes, c'est rare que j'en sorte, ah, c'est trop bien. Mais il y a des fois, il y a des perles, il y a des fois, tu sais, tu vois, mec, j'avais l'énergie parfaite, j'ai fait tout ce que je voulais faire, c'était nickel. Ouais, mais ça, c'est une fois tous les 4 mois, tu vois. Mais par contre, si tu vas pas tous les jours, la prochaine, elle arrivera jamais, quoi. Elle arrivera jamais.
C'est complètement ça, c'est les. Mais on leur met en plus, laissons le temps, tu vois.
Et ouais, laisse le temps.
Parfait, en vrai. Imagine vraiment, demain, tu te lèves, tout est parfait, tout est merveilleux. C'est horrible.
C'est horrible. En fait. Tu te lèves plus. Moi, je me lève plus.
Vraiment.
Ah, je me lève plus, mais.
C'est horrible. C'est horrible. C'est une dualité, yin et yang. Rien, enfin, tu vois, tout, même les muscles, un se contre, l'autre se lâche. Yin et Yang, tu vois.
C'est clair.
Cette dualité en permanence.
C'est clair.
Elle est obligatoire et c'est voilà, du chaos naissent les étoiles, tu vois, c'est vraiment ça.
Et je pense, ouais, c'est une vraie observation simplement de la nature. Ça fonctionne comme ça et qu'on doit laisser faire. Et nous, étant membres de cet écosystème, bah, c'est logique qu'on fonctionne pareil. C'est logique qu'on fonctionne jamais en tout positif ou jamais en tout négatif. C'est impossible, tu vois. Et c'est comme ça que naît aussi cette idée de, bah ouais, dans le négatif, il y a du positif, et dans le positif, il y a du négatif. Il y aura toujours un peu des deux, et après, à toi de mettre ton attention là où tu as envie de mettre ton attention, voilà. Mais souhaiter... Ouais. Ah bah attends, ouais, ça me fait penser à une citation, toi qui aime bien les citations. Je crois que c'était Jordan Peterson qui disait, en fait, l'erreur, c'est de souhaiter une vie facile. Tu vois, tu devrais souhaiter une vie difficile. Parce qu'après, en fait, c'est comme ça que tu auras des challenges, des expériences, que tu vas grandir, tu vas te fortifier, tu vas t'améliorer, être beaucoup plus endurant, avoir plus de courage. Mais si tu souhaites de la facilité, comme ce qu'on disait pour les gens qui viennent, je veux un équipe. Mais en fait, tu t'es en train de vouloir le pire truc que tu veux, que tu peux vouloir. C'est le truc final. L'idéal, ce serait de comme on disait tout à l'heure, de valoriser le truc difficile. Si je te propose 10 chemins et que je te dis, il y en a 9 qui sont faciles, il faut que tu me dises, je veux le plus dur, le plus long, le plus lent, celui qui va m'apprendre le plus, c'est celui-là. Le reste, ils vont jamais rien t'apprendre. Si on donnait à tout le monde, parce qu'ils le voulaient, les choses qu'ils veulent, t'aurais que des gens encore plus fainéants et encore plus, plus léthargiques. Tu vois, si t'as pas à réfléchir pour avoir les choses, si t'as pas à remettre en question, à travailler, à trimer pour avoir quelque chose, c'est que cette chose-là, elle en vaut pas la peine. Tu vois, si c'est facile, c'est que ça en vaut pas la peine. Ça devrait être un signal de oula, là le mec, je lui ai dit une fois, il me l'a donné, oula, c'est pas bon ce truc-là. Non, moi je veux un truc, une ceinture noire en jujitsu, 15 ans, ok, vas-y, je signe, tu vois. Voilà, là, je signe. Ça. Un équilibre, 3 ans, ok, je signe, tu vois. Mais,
ouais, ouais. Tu vois, c'est toujours le chemin qui est intéressant et on l'oublie. C'est construire des choses et puis c'est à l'image de la vie quoi. Quand on est, on parle pas, on marche, enfin tu n'es pas genre avec ton costard, ta cravate et tu sais déjà courir, tu vois, enfin sinon
ouais, tu sais rien faire, tu gagnes les choses,
t'es assisté, ça prend le temps qu'il faut, c'est un process long et tout et c'est lent et c'est long et c'est à l'image de la vie, mais on a du mal, je pense, à faire beaucoup de relations, tu vois, avec la vie, en fait, et la naissance, l'adolescence, on appelle bien la puberté, la préadolescence, l'adolescence, enfin, ça veut bien dire qu'il y a des phases. Exact. Vas-y, respectons le temps, tu vois, rien ne se fait dans la vitesse. Oh, oui, mais à un moment, tout se casse la gueule, quoi.
Exactement, il n'y a rien de pérenne qui se fait dans la vitesse, ça, c'est certain, tu vois.
Enfin, du moins, je pense que toi et moi, on en est certains. Après, certains ont peut-être d'autres philosophies, mais voilà. Moi, je suis dans l'éloge de la lenteur et de prendre le temps, parce que l'idée, c'est d'avoir une pratique. Tu vois, toutes ces vidéos que tu poses, des mecs qui ont 82 ans, qui font des tractions, des pompes et des concepts comme ça. Faut que je descende vite fait, je prends l'ordi. Hein,
mais vas-y, vas-y.
C'est ça, en fait, tu vois. C'est si tu prends le temps de prendre le temps, s'il se passe des choses merveilleuses.
Exactement.
Si tu vas une vitesse excessive, c'est pas possible, tu vois. Enfin, je connais personne qui est passé de 0 à 10 ans, tu vois.
Ouais. Ah ouais, c'est certain. J'en parlais avec un ami. Je parlais de ça aussi, justement, là, sur ces vidéos ou sur les gens que tu peux voir à 70 ans faire les mêmes exercices qu'ils faisaient quand ils avaient l'âge de 20 ans. En fait, ils ont pas commencé à l'âge de 67 ans. Non, ils ont commencé à l'âge de 7 ans. Et là, 63 ans plus tard, à l'âge de 70 ans, ils en sont encore là. Et c'est ça qui est difficile pour les gens de percevoir, c'est qu'ils voient quelqu'un d'un peu plus vieux qu'eux, même de 2 ans plus vieux. C'est-à-dire que j'ai des copines, des amis, machin, elles me disent, ouais, bah là, regarde, je sais pas, j'ai 28 ans, je sais rien faire, quoi, physiquement, je peux pas faire une pompe, je peux rien faire. Et pourtant, tu passes un temps mais monstrueux et des sommes faramineuses à essayer de te rendre plus joli, plus attractif, plus, en gros, à faire en sorte que ton corps puisse faire des choses, mais juste visuellement, tu vois. Mais ouais, mais en fait, tu es très bien qu'au fond, tu peux rien faire. Tu vois, tu montes 3 étages en escalier, c'est fini, quoi. Tu vois, t'es en PLS. Ouais. Et ben alors, pourquoi tu te dis pas, si tu veux te sentir, bien pour le reste de ta vie, commence maintenant. Mais te dis pas, quand j'ai 45 ans, eh ben, j'aimerais bien me sentir bien à l'âge de 50 ans, donc je commence à 45 ans. Ce sera plus dur. Plus tu retardes, plus c'est dur. Ça ne veut pas dire que par la suite, c'est impossible, mais c'est tellement plus dur, mais immensément plus dur de commencer plus tard.
C'est se mentir un peu aussi, tu vois. C'est se trouver des excuses de « je commencerai quand j'aurai 40 ans » ou tu sais, où je veux un coach, mais pas tout de suite. C'est maintenant, tout de suite, tu vois. Si tu veux quelque chose, c'est maintenant, c'est tout de suite. Oui, ça va être chiant. Oui, c'est vrai que c'est sûr. Moi, les gens qui me disent, mais t'aimes t'entraîner, je dis non. Non, j'aime pas.
C'est clair. Ah, oh, amen.
Quand j'ai fini et que je me dis, je l'ai fait. Je l'ai
exactement.
Fait. Et quand je soulève un truc, je fais une pompe, je fais un machin, je suis là, mais putain, oh, qu'est-ce que tu fous là?
C'est clair.
D'idée. Mais j'ai fini, je suis là, pouah, t'as ce petit sourire, t'as cette petite, voilà, ce petit ego qui dit, ouais.
C'est fierté, bien sûr, bien
bravo,
sûr.
Bravo,
bien
bravo.
Sûr.
Mais, et c'est pas qu'on s'entraîne. C'est pas pour. Non, c'est chiant de s'entraîner.
C'est clair, c'est clair. Ça prend du temps, t'es éclaté, après t'es fatigué, enfin. Il y a tellement de, on va dire, il y a tellement de contraintes, tu vois, le déplacement, machin, la douche après et tout ça. Tu te dis, putain, mais en fait, c'est relou. Ouais, mais non, parce qu'en fait, le gain sur le long terme et de comment tu te sens le reste de la journée dans ta vie, quand tu rencontres quelqu'un devant tes parents, quand tu parles de toi, l'assurance que tu as, elle vient de ça. Elle vient de tous ces moments-là où tu trimes, tu vois, où tu te donnes une occasion de faire des choses difficiles. Et moi, c'est vraiment… Là, le message que sur cette petite arc-là d'épisode, c'est vraiment cette idée-là, quoi. Faisons des choses difficiles, faisons des choses qui sont complexes, qui sont compliquées. Adressons les challenges les plus durs. Mais ne. Enfin, moi, c'est vraiment. J'en avais pas parlé avant, là, dans les anciens épisodes, mais ouais, en fait, je refuse la facilité, quoi. Je refuse qu'on me donne des choses. Ça, c'est insupportable, ce truc-là. Non, c'est pas possible.
Je sais plus ce qu'ils disent, c'est je prends en visant la lune qu'on atteint les étoiles, mais c'est complètement ça quoi, c'est en prenant un chemin difficile, peut-être tu le finiras pas ce chemin, mais t'inquiète pas que tout, enfin, tu n'iras pas au bout mais tout le chemin va être merveilleux.
Exactement.
Parce que oui, tu sors de cette zone de confort, tu te mets un peu dans le mal, mais tout ce que tu en retires après.
Il y a tellement de choses imperceptibles, là, comme on le disait, sur, rien que sur des carrières sportives, tu vois, tous les souvenirs et tout ça, c'est des trucs, au tout début, quand tu signes pour commencer, tu sais pas qu'il y a tout ça, tu vois. Et c'est ça qui est difficile pour les gens, comme tu disais, les gens qui veulent un coach ou un truc comme ça, ou qui veulent commencer l'entraînement physique et tout, ou, ils se disent, ouais, mais là, regarde, c'est chiant, ça va me prendre 3 heures et tout, parce qu'en fait, ils voient pas encore tous les autres bienfaits. Ouais, mais d'accord, ok, ça te prend 3 heures. Ok, tu fais des exercices, ok, tu transpires et tout. Ouais, mais après, le lendemain, quand tu vas voir tes enfants, tu vas leur dire, je m'entraîne. Ils vont être fiers de toi. Tu vas leur donner des bonnes valeurs. Quand tu vas aller au taf, tu vas dire, non, mais moi, je suis un gars qui m'entraîne. Tu vas appartenir à cette classe de gens, tu vois. Ça, c'est vrai que ça joue. Tous ces des biais psychologiques, tu vois. Tout ce tribalisme et tout. Mais c'est vrai. Tu vois, on sait très bien qu'on pense de nous-mêmes qu'on est différent des autres parce qu'on appartient à, moi, je suis un yogi. Moi, je suis un boulanger. C'est bien. Ça fait partie de notre humanité aussi, tu vois. Et ben là, tu vas appartenir à la communauté des gens qui prennent soin d'eux. Et tu vas appartenir à la communauté des parents qui font des bonnes choses devant leurs enfants. Tu vas appartenir à la communauté des gens qui pensent que le temps, c'est la ressource la plus importante. Et bref, tous ces petits trucs-là qu'on attache, tous ces petits badges d'honneur, tu vois, qu'on attache à nous-mêmes, qu'on essaye d'utiliser pour nous définir de plus en plus, tu vois, et pour essayer de se retrouver, quoi. Et il n'y a rien de plus bénéfique. Et je pense que ces badges-là, tu les as que quand c'est difficile, quoi. Tu les as pas quand c'est facile.
Hier, c'est marrant, je finissais ma séance avec un couple dont je m'occupe, c'est un grand, que je sers, on va dire, que je sers depuis 3-4 mois, je crois. Et hier, on a fait 3 minutes non-stop d'abdos. On a fini, c'était comme ça. Wow. Wow. Putain, on a fait 3 minutes là, on a fait 3, non, mais vraiment proche, on a fait 3 minutes et tout. Je dis, ouais, vous avez fait 3 minutes et tout. Et ils étaient comme des ouf. Je me dis, il y a 2 mois, jamais j'aurais concevoir dans ma tête qu'un jour je ferais des 3 minutes non-stop d'abdos. Et c'est, je trouve, là, eux ils ont chié et ils commencent à capter. Ils commencent à capter le process, le truc, c'est en train de. Et à un moment, oui, les gens, pareil, tu vois, ouais, dans combien de temps j'aurai un ventre plat, dans combien de temps.
J'adore.
Vas-y, dans longtemps, je préfère te dire, c'est dans longtemps, tu vois, peut-être, ou crois-moi, si tu viens de façon régulière, si à côté de moi aussi tu t'entraînes solo, tu fais des trucs, des machins, peut-être que dans 3 mois tu vas commencer à sentir. Mais sinon, c'est dans 6 mois. Mais attends, comment ça, il dit ça, c'est cet été, c'est dans 3 mois là. Comment je fais?
Oublie.
I don't know, tu t'entraîneras avec ça aussi, quoi, c'est tout. Hein. C'est ça, et voilà. Et là, vraiment, c'était vraiment. Leur réaction, elle était géniale, tu vois, vraiment, les petites étoiles dans les yeux, le
wow,
putain, minute, wow. Et c'est ça, tu vois, c'est voilà, le process est long, le process est lent, le chemin est difficile. Mais voilà, c'est parce qu'ils sont là une fois par semaine, qu'ils se butent après solo à la maison et tout, que voilà. on en est arrivé là aujourd'hui, que vous êtes les premiers contents parce que vous n'avez pas pris cette facilité. Vous avez pris le chemin difficile de « Ok, je vais aller bien, bah, je vais faire une séance solo, puis je vais faire une séance avec un coach, et puis bah, voilà, je mets des choses en place, je mets ce process, et t'inquiète pas, tu en récoltes. » Tu vois, c'est comme c'est planter des graines, mais une graine avant qu'elle devienne un arbre, bah, vas-y, tranquille frérot, tu vois, prends le temps, il faut lui donner de l'eau, il faut enlever les mauvaises herbes, puis il faut la nourrir, puis peut-être que de temps en temps, il faudra couper une branche ou deux pour que ça puisse bien pousser, machin. N'y crois pas, la graine en 6 mois, elle ne devient pas un arbre majestueux, tu vois, non. Non,
ça existe nulle part.
Le temps de grandir, quoi. Mais même clair. Si tu mets des engrais, tout ce que tu veux, hein, tu la pousses, ce que tu veux, tu vois, tu mets des injections, des trucs, ce que tu veux. Bah ouais, ça va peut-être améliorer le process de, allez, peut-être un an, on va dire. Mais il n'empêche que pour que ça soit un arbre, il faut lui laisser 10-15 ans, quoi.
C'est clair.
Tu vois, c'est prenez clair. C'est ça la vérité.
Amen, amen. Bah écoute, sur cette note positive, je te propose d'aborder la dernière partie du podcast dans laquelle, tu sais, je pose des questions aux invités. Et comme je le répète à chaque fois, c'est les mêmes questions pour tout le monde. Comme ça, les gens, ils peuvent extraire les réponses à des questions qui sont, comme c'est les mêmes, ils peuvent avoir une sorte de compilation des statistiques, tu vois, avec plein de points de vue différents. Tu vois, de tous les movers qui viennent avec leurs différentes expériences, leurs différents backgrounds, leurs différentes manières de voir les choses, et bien si aux mêmes questions il y a des réponses qui sont similaires, ils peuvent se dire ah ok, c'est peut-être un outil utile, tu vois, ah bah je vais essayer de m'y attarder. Et moi l'objectif c'est vraiment de faire une librairie, quoi, d'outils que j'appelle les outils, tu vois, du movers cosmique. Donc tu vois, les livres, les ressources, les bons conseils, les bonnes pratiques, tous les petits trucs qu'on pense être utiles, et ben voilà, le mec qui vient piocher là-dedans, il prend. S'il y a un livre auquel il n'a pas pensé, il peut le lire. Et tu sais, c'est libre, quoi. C'est un marché, quoi. Un marché, une bibliothèque. Et tu prends les livres qui te correspondent et tu fais ta propre mixture. Ça marche ? Donc, je vais te poser des questions. C'est un peu, comment dire ? Genre, j'appelle ça un peu rapid fire, tu vois, en mode tu réponds direct. Mais ça ne veut pas dire que tu vous donnes la première chose, mais essaye d'avoir un truc, tu sais, de pas, justement, pas avoir le temps de masquer, tu vois, par toutes les couches de l'ego et de ouais, mais j'ai envie que ça sonne bien à la caméra, donc je vais dire ça. Non, réponds direct, mon pote.
Vas-y.
Alors, la première question, si tu avais un livre à offrir, quel serait ce livre et pourquoi ?
Alors, moi, j'ai bien aimé, enfin, j'en ai plein, mais Enquête d'excellence du docteur Terry Orlick. Il s'occupe de, c'est beaucoup, il est dans la tête. Il s'occupe de soit de grands sportifs, soit de personnes du CAC 40. Il fait énormément de visualisation, il fait beaucoup de choses comme ça. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et sinon, c'est tous les livres du Dalai Lama et Comment être heureux. C'est le premier livre que j'ai lu du Dalai Lama, Comment être heureux. Et ça a été mes premières connexions un petit peu spirituelles et mes premières ouvertures. Enquête d'excellence, Dr. Terry Orlick. Enfin, il y en a plein, mais Enquête d'excellence, Terry Orlick. Et les livres du Dalai Lama et sa définition du bonheur. Franchement, je conseille ces deux-là. Et s'il faut, on fera un podcast, on en redonnera d'autres. On va y avoir.
Ouais, ça peut être utile. Bah écoute, c'est mortel. Ils n'ont jamais été proposés. Ça peut être un excellent outil. Pour justement les livres là, du Dalai Lama, je vais te laisser un peu en parler davantage. Sous quel format ils se présentent et comment toi tu les as consommés, à quelle phase de ta vie et pourquoi tu penses que pour des gens ça pourrait être utile ?
Parce que alors je les ai consommés suite à une rupture où en fait je me nourrissais de mon malheur. J'étais dans mon malheur, c'est des livres de poche, c'est vraiment des tout petits livres, donc ça c'est cool, tu peux les transporter très facilement. Et je tombe sur la définition du bonheur. Du coup je me dis attends, c'est pas mal ça quand même.
Le titre il est bien.
C'était vraiment bien et je chope ce livre. C'était il y a, je sais plus trop c'était il y a combien de temps, mais voilà, c'était il y a peut-être 8-10 ans je crois. Et c'est une belle révélation en fait de comprendre. Ce que j'ai compris c'est que on était créateur de notre vie en fait avec ce livre. Et que c'est toi qui crée ton malheur, c'est toi qui crée ton bonheur, c'est toi qui décides de rester dans ce mood, dans ce spin, dans ce truc. Et je l'ai consommé, d'ailleurs je l'ai prêté et j'arrête pas de me poser la question à qui je l'ai prêté. Parce que tout livre, je sais plus à où ils sont, mais voilà, ce livre je l'ai lu, tu le lis très facilement. C'est ça que j'aime bien un petit peu aussi avec les livres de développement personnel, si on peut dire, c'est que tu peux ouvrir une page, paf, lire, tu peux refermer, tu peux reprendre une page, n'importe laquelle, parce qu'au final, c'est pas une histoire, il n'y a pas une suite logique dans ce qui est raconté. Et ce que j'aime bien avec le Dalai Lama, c'est que il a plein d'anecdotes. En fait, c'est un mec qui l'a suivi pendant des années et donc qui raconte un petit peu comment fonctionne le Dalai Lama. Et t'as des trucs exceptionnels, quoi. Il connaît le nom de toutes les femmes de ménage, de tous les hommes de ménage, de toute la maintenance, de partout où il va, dans tous les hôtels où il va. Du coup, c'est une claque d'humilité. Et il te fait comprendre que bah ouais, le bonheur il est là, quoi, tu vois, il est en toi et c'est à toi de le trouver, de le définir. Et ce que j'aime bien aussi, c'est les livres de poche, parce que moi j'adore écrire sur les livres, souligner machin, mettre des trucs, des astérix, des ouah, ça j'ai kiffé, ça c'est cool, ça fait machin, plier les pages machin, tout ça. Et donc c'est des formats qui s'y prêtent et c'est des bouquins vraiment pas chers, quoi. Donc ceux-là sont, voilà, moi j'aime beaucoup les livres de poche parce que bien. Ça se met dans la poche.
Une bien belle présentation, c'est vrai que c'est cool. Ça pourrait être très sympa pour celles et ceux aussi qui veulent pas, tu sais, commencer avec un tome de 700 pages de ah bah vas-y, je vais t'expliquer comment la vie elle marche, tu vois. Et là t'as le truc impossible.
Ouais, c'est voilà. Ou sinon t'as les, pour votre dernier petit rebond, c'est les livres de Laurent Gounel. C'est du développement personnel mais dans des histoires. Donc ça, okay, aussi, c'est très intéressant. C'est assez cool, c'est tu t'as un roman, mais au final, pareil, il te...
Ouais, un peu à la... Ça me fait penser à un livre là, qui a été recommandé aussi précédemment, c'est le livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste. Et c'est ça aussi, c'est genre une histoire, mais à l'intérieur, il y a tellement de phases cosmiques que tu voilà. Dis, vas-y, en fait, c'est ouf.
Wow, ok, ouais, c'est pas clair. Histoire, quoi.
Mortel. Question numéro 2.
Oui.
Si tu devais laisser un message sur Terre avant de partir, ton dernier message à l'humanité, ça peut être une citation, un mot, une phrase. Dernier message, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais à tes compères humains ?
Le monde du partage devra remplacer le partage du monde. C'est ma phrase.
Ouh, le poète. J'aime beaucoup.
C'est Claude Lelouch.
Claude Lelouch. Ah, j'adore. J'adore. J'adore,
elle
j'adore,
très
j'adore.
Puissante, très, très elle puissante. Est très, très vraie. Elle est extrêmement vraie. Où t'as, voilà, ce que tu donnes t'appartient, ce que tu gardes est perdu à jamais. C'est ces mêmes concepts, quoi. Si on en revient, le partage, y a que le partage, y a que le partage. On est des passeurs, on est rien, rien ne nous appartient. On va mourir, d'autres vont arriver, on est né, il y en a d'autres qui étaient là. Le mouvement que tu crées, ça se trouve, on sait pas, mais en 1800, il y a un chemin, il a fait le même mouvement.
C'est clair.
Et quand t'es là, putain, j'ai créé un move, alors qu'en fait, pas du tout, tu vois. Et quand tu vas mourir, il y a sûrement quelqu'un qui refera les moves que tu pensais avoir créés. On est que des passeurs.
Absolument vrai, absolument. Je partage pleinement cette idée-là. Dans, on est des vecteurs de passage, tout simplement.
Bah ouais. Vecteur. Et puis c'est beau. Si tu passes les choses, si ce qui me rend heureux, je te le fais partager, ça te rend heureux. Bah c'est génial, c'est tu vois. C'est ça, quoi.
C'est encore mieux, quoi. C'est encore mieux. C'est parfait. Troisième, exactement. Troisième question. Ta routine matinale parfaite.
Ma routine matinale parfaite, c'est petit réveil naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ton réveil qui sonne. Et tu te réveilles quand tu dois te réveiller. Prendre le temps de traîner un petit peu dans ton lit, tu vois, pour prendre le temps de te réveiller tranquillement, sans rush, sans pression. Se lever, boire son petit café en regardant une belle vue, en entendant le bruit des vagues ou en voyant des grandes montagnes majestueuses ou au milieu d'une forêt. Me poser à même le sol, jambes croisées ou pas, les yeux fermés, faire un peu de méditation pendant bah, je sais pas, le temps qu'il faudra le faire, tu vois. Et après, commencer à se mouvoir tranquillement dans son petit mouvement, dévier sa colonne, dévier ses jambes, ses hanches, ses épaules, prendre le temps de passer de cette position, même presque, j'aime bien dire, allongée, tu nais, jusqu'à tu te redresses. Et là, bah, tu es cet adulte, si on peut dire, le process de la vie de je m'allonge, je m'accroupis, je suis à quatre pattes, je me redresse. Et après, enseigner. Enseigner, partager. C'est ça.
Boum ! Magnifique, mon frérot. Dernière question, une question que j'essaye, là je m'en suis rappelé, ça, c'est bien, parce que je ne l'ai toujours pas noté. Des nouvelles nouveautés là depuis quelques épisodes. Je me dis que ce serait bien, comme on est dans le thème là du partage et d'être un vecteur de passage, j'aimerais te demander où est-ce que les gens pourraient se connecter avec toi, que ça soit bah là pour les services que tu proposes, les cours de yoga, les choses comme ça, ou simplement pour te poser des questions parce qu'ils se sont reconnus dans l'épisode, ils viennent de la gym ou d'ailleurs, ils se disent ah j'aimerais bien, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce livre, sur ça et tout. J'aime bien ouvrir là le dialogue en fait avec les gens pour que la plupart des gens comprennent que non, on n'est pas sur un piédestal et que tu as juste à envoyer un petit message et on va te répondre et que c'est bon. Donc, quel est le meilleur endroit pour te contacter. Et moi, je mettrai ça sur la page, sur le site, pour que les gens puissent avoir accès à ça facilement.
Malheureusement, c'est Instagram.
Fais-en.
Je m'appelle Prosper. Mon métier, c'est d'être coach. Le coach Prosper.
Easy. Voilà.
Et après, on est aussi... tu connais mon numéro, tu mets mon numéro. Il y a mon portable, mon 06.
Énorme.
Moi, je suis ouvert à tout. Tu m'envoies un WhatsApp, tu m'envoies un texto, tu m'appelles, tu laisses un vocal, ce que tu veux. On partage, on est là. On est là pour... je suis personne, hein, mais je suis là pour écouter et pour partager, pour, voilà, pour être dans cet échange. Donc, mon 06.
T'es le premier qui donne un 06.
Ah ouais, ouais, prenez, appelez, partagez, faites ce que vous voulez. Tonique, tu vois, c'est relou, mais voilà, je suis pas, si je peux aider, je le ferai. On est que des passeurs.
Voilà, j'ai hâte que le podcast soit téléchargé par des milliers et des milliers de personnes et que tu reçoives des appels. Je sais pas, dans 3-4 ans, les gens, ils font, putain, mais qui me bombarde d'appels? Putain, mais c'est Slim encore, c'est son podcast, ça l'a fait il y a 4 ans, tu sais. Mec, ça soit sa hantise.
Voilà. Téléphone et Instagram. Je suis pas forcément ultra réactif, mais du moins je prends toujours le temps de répondre. Je prends toujours le temps de répondre parce que c'est la moindre des choses et c'est déjà un honneur d'être posé par des gens. Donc je prendrai toujours le temps de répondre. Et sinon, bah si vous voyez que je réponds pas, bah 06, hein. 06 60.
Magnifique, mon frérot. Eh bien, écoute, sur ces belles paroles, est-ce que tu as un dernier mot à nos auditeurs avant de nous quitter? Ou bien on finit sur cette belle pétillante conclusion?
Ouais, c'est devenez qui vous devez être. Et voilà, n'ayez pas peur, foncez, ne pensez pas aux autres. Quand j'ai commencé à entraîner, j'ai dit comment on devient bon entraîneur? Un mec, il m'a dit, pour être bon entraîneur, tu vas passer pour un fou. Tout le monde va te dire, ouais, il fait des trucs chelous, qu'est-ce qu'il fait et tout. Mais il dit, mais fais, t'inquiète pas, écoute pas les autres, fais et tu verras que...
Ah, déconnexion. On a perdu le Prosper. Trop d'ondes cosmiques apparemment. C'est la première. À 1h58 d'enregistrement. Normalement, il devrait réapparaître incessamment sous peu. Attends. Donc là, c'est bon. Heureusement que ça arrive à la fin. On a fait un enregistrement de 2h01 et 17 secondes précisément, mon Prosper. Là, je t'ai mis sur haut-parleur.
Excellent.
Pour terminer ta belle anecdote, mais machallah, l'internet. Normalement, ça devrait fonctionner.
Complètement, psartec l'internet. Hein.
Donc voilà, tu nous dis. C'est la première fois que ça arrive. J'adore, mec. Donc, dis-nous tout, mon Prosper. Tu étais dans une belle anecdote sur quand on te disait comment on devient un bon entraîneur. Tu disais simplement fais les choses,
comment...
et c'était le dernier message à nos auditeurs et à nos visionnaires.
Bah, c'était un bon entraîneur. On peut remplacer le mot entraîneur par ce qu'on veut en vrai. Un bon musicien, un bon papa, une bonne maman, ce qu'on veut, tu vois. En fait, c'est je pense que le mot d'ordre, c'est oser, quoi. C'est oser. Et vraiment, moi, c'était la gym mondaine. Donc, j'ai demandé comment être un bon entraîneur de gym. Le mec m'a dit, en fait, il faut que tu vas être un ovni aux yeux des gens. Si tu veux être un bon entraîneur, tu vas être un ovni aux yeux des gens. Ils vont pas comprendre ce que tu fais. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Qu'est-ce qu'il a? Parce qu'en fait, tu sors des qu'on battu encore une fois de ce que tu appliques souvent en tant qu'entraîneur que tu as connu en tant qu'athlète sans remettre en question rien, tu vois. Et dans la vie, c'est la même chose. Tu deviens un bon humain si à un moment tu t'interroges en fait sur ce que tu crois être le chemin qu'on t'a appris, si tu remets un peu en cause tes croyances et ces choses-là. Donc le mot d'ordre serait d'oser vraiment, je pense. Et c'est en osant qu'on devient celui qu'on doit être.
Amen. Et bien voilà, on va essayer de racoler ces deux bouts. Ça devrait nous faire une belle conclusion, mon Prosper. Dans l'amour et dans l'humour, comme tu disais au début, comme dans ton enseignement.
Dans l'amour et dans l'humour.
Et bien, magnifique, mon frérot. Et bien, écoute, sur ces belles paroles, merci à toi. Et puis, je retrouve...
T'es fou, merci à toi.
Merci, mon Prosper. Et puis, je vous dis à tous à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao.
Exactement. Merci à nous, merci à vous, merci à tous. Shaku feel love, man. Shaku feel love, man.
Oui, les movers, une bien belle conversation cosmique. Comme je vous l'ai dit, le coach Prosper, c'est un personnage. N'hésitez pas à le suivre. Comme d'habitude, dans la description de cet épisode, que ce soit au format audio ou ici sur YouTube au format vidéo, n'hésitez pas, vous allez retrouver le lien vers les notes, les ressources, les extraits de cet épisode. Et n'hésitez pas après par la suite à naviguer sur mon site pour découvrir les autres épisodes, les ressources, les liens. Comme d'habitude, ce que j'essaie de faire dans cette chaîne YouTube et avec ce podcast, c'est vous présenter différents outils qui vont complémenter ce que moi je partage sur se réapproprier pardon, le corps avec le travail de mobilité, de mouvement et la reconnexion à sa physicalité. Avec le podcast, on aborde les choses un peu plus métaphysiques, que ça soit la méditation, la nutrition, la spiritualité. Et voilà, essayez humblement d'adresser tous les aspects, toutes les dimensions de notre être. Donc n'hésitez pas à naviguer. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui écoutent uniquement en audio sur les plateformes, n'hésitez pas à me laisser une évaluation et un commentaire, ça aide à promouvoir le podcast. Et pour celles et ceux qui sont sur YouTube, un commentaire, une question, n'hésitez surtout pas. Et voilà, comme d'habitude, partagez, parlez-en autour de vous si ça vous est utile. Et sur la chaîne YouTube, je découpe tous les épisodes et j'en fais des extraits. Donc vous allez pouvoir avoir un recueil d'outils par thème, avec voilà, le point de vue des différents invités, des différentes opinions selon le background, selon les expériences de chacun. Et je pense que ça va vous être utile. Encore une fois, un grand merci pour votre soutien, pour votre attention. Gratitude, abondance et bienveillance. Ciao, ciao les movers. J'accouffre, 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 j'accouffre,